partez avec une soumission budgétaire en quelques minutes. Simard Cuisine et Salle de bain, le haut de gamme plus accessible que vous ne le croyez.
Keep on rolling, baby. Boulevard 102, c'est Marceau le matin, le point de Max. On en jase le midi et Gravel dans le retour. Sans oublier les rendez-vous.
Émission On en jase, ton émission du midi sur Boulevard 102 est exactement midi une minute. Pour nous joindre, 418-971-1001, je sais que vous aimez beaucoup interagir avec nous. On va avoir un caucus tout simplement en feu avec Antonine Iaccarini qui est à la maison. Mauvais déglaçage des rues, accident d'auto cette semaine, impogné, pas de char. Non, mais ça, là, hein? Cette ville de Québec-là, 652 plaintes sur le déneigement, mais Bruno Marchand encore osé dire sur nos zones hier. Ça va bien, les amis. On est bon dans le déneigement. OK, je vais faire un petit prélude. Je vais lancer à pas que tu suites, Antonine, tiens. Anto, quand t'entends ça, on est bon dans le déneigement avec ton accident de char puis 652 plaintes. T'es trouves-tu bon en ville de Québec?
Écoute, c'est pas une bonne semaine pour me poser la question. Je le sais qu'on est on a été longtemps gâtés à Québec. Okay? Puis ouais. Je vais travailler à Montréal à chaque semaine. Je peux vous dire que quand on se compare, on se console.
Ça, c'est
mais
dry.
C'est vrai que moi, je préfère, au lieu de nous comparer au pire, ben, c'est sûr que je trouvais que le déneigement à Québec, ça a toujours été très efficace. Ça allait vite, on ramassait tout dans une nuit. Il me semble que ça roulait. Là. Puis là, récemment, on me dit aussi qu'il y a une pénurie de sel de déglaçage et que ça paraît, hein, puis que c'est plus compliqué à en trouver. Mm-hmm. Parfait. Est-ce qu'on peut fermer les côtes dangereuses si on n'a pas de sel à mettre dedans, s'il vous plaît?
C'est une excellente question. Ma foi, pourquoi tu penses à ça, Antonine? T'as un cerveau supérieur à la moyenne?
Écoute, j'ai la tête à Papineau. Ça doit être ça.
Tu devrais être au ministère de comment dire, de la sécurité
du déneigement.
Publique.
Écoute, d'ailleurs, je dois pas dire quand même que même si on critique, je ne voudrais pas être une élue municipale qui gère le déneigement. Non. Je sais que c'est un dossier qui n'est pas facile. Par contre, effectivement, cette semaine, je suis vraiment embêtée par ce qui s'est passé parce que ça aurait pu être très dangereux. J'ai cassé mon auto. C'est du matériel, j'ai des assurances, il faut quand même que je paye un certain montant, vous savez comment ça fonctionne.
Oh oui.
Il aurait pu y avoir un piéton sur le trottoir que j'ai percuté, honnêtement, là, j'étais très contente, c'était à l'heure que les enfants vont à l'école, c'est la première chose qui m'est venue en tête après, je me suis dit, j'aurais pu frapper quelqu'un, et je ne roulais pas vite, je tiens à le dire.
Mais Anto, puis on termine là-dessus, après ça je vais rappeler aux gens comment nous suivre, on va faire des manchettes, on va aller au caucus, mais Anto, toi tu donnes des formations en relations publiques, tu travailles en gestion de crise, quand tu as 652 plaintes, moi j'ai travaillé au RTC, au département des plaintes, là. Puis là, t'sais, nous autres, une grosse journée, mettons, c'était 100 plaintes, bien quand j'avais une journée à 100 plaintes, là, je disais à mon équipe, hey guys, dites-moi c'est où que ça va le plus mal, dites-moi c'est quoi les trois plus gros problèmes, puis je vais aller cogner aux portes de ces gens-là, puis je vais leur dire, hey, faut que tu règles ça dans 48 heures parce que ça n'a pas de sens ce qui arrive. Pourquoi qu'on ne fait pas ça à la Ville de Québec avec 652 plaintes en déneigement?
J'en ai aucune idée. Je sais que quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là, sur la route à Québec, il faut appeler le 311, si j'ai bien compris. Moi, j'ai plus tendance, c'est peut-être
oui, non,
à des formations médiatiques.
C'est en plein ça, c'est le 311. Mais pourquoi là, le maire de Québec ou son administration, là, ils ne prennent pas les 652 plaintes qui sont rentrées au 311 et ils ne disent pas « OK, c'est quoi maintenant nos 5 priorités pour régler le maximum de problèmes qui nous a été rapportés dans les 652 plaintes. » Parce qu'ils font pas ça, ils font juste nous dire « Bah, il y a plus de neige, c'est pas notre faute, on est bon. » Mais c'est pas vrai qu'ils sont bons.
Écoute, il y a sûrement aussi des... Je sais que j'ai l'air très nuancée, là, mais c'est parce que je ne sais pas exactement ce que la Ville de Québec fait avec ça présentement. C'est sûr que si nous, on le sait pas, ben, il y a peut-être aussi un petit manque de communication sur... est-ce que c'est une priorité? Est-ce qu'on s'en occupe vraiment? Ou est-ce qu'on roule les yeux puis on dit les gens sont chialeux? Parce que c'est un peu ça aussi, hein, dans les dernières années. Je comprends qu'il y a peut-être une gestion du changement à faire. Peut-être, effectivement, je sais que toutes les municipalités sont prises avec des coupures budgétaires. Faut couper, faut couper, faut couper. Il faudrait nous l'expliquer, peut-être, par exemple. Donc, puis tu sais, nous, on suit ça tous les jours puis on a l'impression qu'il n'y a rien qui est fait à la suite des plaintes. Donc, il y a peut-être un petit problème, là.
Oui, et en primeur, midi 35 avec Alicia Despins, vous avez entendu parler de coupure aux patinoires extérieures à la ville de Québec. On a coupé votre service de vidange. On déneige encore les pistes cyclables au coût d'un million. Et là, on va vous parler de coupure de place dans les camps de jour. C'est à ne pas manquer. Midi 35, c'est une exclusivité boulevard 102.1. Donc, vous allez comprendre que le maire Marchand, pour ses idéologies de poêle à bois puis de pistes cyclables, il fonce à coups de millions de dollars. Mais pour vous, le citoyen, il vous coupe des patinoires, il vous coupe des places en camp de jour, il coupe sur le déneigement, ça vous fait faire des accidents de char comme Antonine Iacarini. Donc, bref, Anto, pardonne-moi, je suis moins nuancé que toi. Je suis en maudit après le maire présentement.
Je comprends ton émotion, puis j'étais en maudit cette semaine. Mais écoute, on verra c'est quoi les réactions pour la suite. Moi, je suis plus une personne qui va regarder les actions que juste rester dans mon émotion. Donc, je suis très attentive. Puis on va voir s'ils vont réussir à te défâcher, Jeff.
Ah, on verra. Donc, il y a un autre sœur qui nous écrit « Ville, son syndiqué. Je travaille là, les gars me disaient « Slack un peu, tu vas nous faire mal paraître. Faut pas trop qu'on en fasse. » Ouais, malheureusement, des fois, dans les milieux syndicales, ça arrive. Pour nous joindre, pour nous écouter, blvd.fm, ça inclut la web radio. Les meilleurs moments de notre émission vont se retrouver sur cet endroit, notamment l'excellent caucus avec Antonine Iacarini. Notre application Boulevard 102.1, disponible sur App Store, Google Play Store. Meilleur moyen de nous écouter, vous téléchargez l'application, vous pouvez nous écouter où que vous allez. Et on sait qu'il y a des gens là, qui voyagent dans le Québec en entier, dans le Canada, donc vous allez pouvoir nous écouter. twitch.tv/blvd/fm. Pour les gens qui veulent venir nous voir en studio, également interagir sur le chat, on vous lit tout le temps. Et abonnez-vous à notre page YouTube, car ça vous permet d'avoir du contenu exclusif en images de Boulevard, notamment nos podcasts avec notre nouvelle série hors-série mardi prochain. Lundi prochain, ça sera diffusé. Mardi prochain, ça va se retrouver sur YouTube, le podcast que j'ai fait avec mon cousin Éric Légaré sur la prévention du suicide où on revient sur nos histoires. Avant de passer au caucus, Pascal, quelles sont les trois manchettes les plus importantes pour nos auditeurs à Boulevard 102?
Beaucoup de choses dans l'actualité ce matin qui ne fait pas partie de la politique. Je vais parler de cette nouvelle-là qui fait beaucoup jaser des présentatrices météo qui ont été menacées. Beaucoup de lettres violentes qui étaient destinées à ces présentatrices météo-là, surtout du côté de TVA, en fait. Puis on se rend compte que les autorités disaient, bon, ben t'es un peu la seule pour celles qui se plaignaient. Là-dedans, on va faire ce qu'on peut, mais bon... Finalement, on se rend compte qu'il y était plusieurs et ça fait des années qu'on est là-dedans. Ils demandent un petit peu plus d'entraide, demandent à ce qu'on cherche parce qu'on pense que c'est la même personne selon des indices qu'on a, concrètement à mettre la main sur cette personne-là. Et ça vient assez violent. Là. Je vous lis un passage qui nous a été donné dans l'actualité. Je m'excuse du langage, mais c'est écrit « Allô, crise de pute, toujours aussi laide à dire des nullités aux 15 minutes. Une autre qui a dû sucer des... »
Ah, ça n'a pas de sens.
Pour avoir un job aussi insignifiant, etc. Puis ça continue. Menace de mort, même pour certaines. Donc, on est là-dedans et il y a un dossier complet qui sera présenté par JE. Doug Ford, bon, on revient à la politique, qui fait des siennes et qui a décidé d'avoir un petit rififi avec le Parti québécois et donc directement Paul Saint-Pierre Plamondon. Et ça tient l'actualité. Là. Doug Ford s'est défendu de ses propos sur le PQ. Il confie avoir le béguin pour les Québécois et donc souhaite qu'il n'y ait pas de séparation du Québec au sein du Canada. Donc, Doug Ford ne regrette pas d'avoir dit que la séparation du Québec serait un désastre pour le Canada, mais il s'agirait tout de même d'un drame personnel pour le premier ministre de l'Ontario. Il dit qu'il y a des papillons dans le ventre quand il rencontre des Québécois. Bon, je ne sais pas si c'est l'afflux de médecins qu'a souhaité conquérir dans les derniers mois. Je ne sais pas qui a réussi à aller chercher autant le cœur de ce politicien assez coloré, mais chose certaine, il s'est calmé envers Paul Saint-Pierre Plamondon, puis Paul Saint-Pierre Plamondon, il a dit de se calmer aussi et de se mêler de ses affaires. Mais c'est une petite guerre idéologique qui se déroule.
On va en parler dans le caucus avec Antonine Iacarini. Rémi Villemur, aussi aux alentours de 13h10, va nous en parler dans sa chronique.
La gouverneure générale aussi a été pointée du doigt dans l'actualité en ce moment. Rémunération de la gouverneure générale qui atteint désormais 393 800 $. Rémunération pour Mary Simon. Elle avait fait l'actualité dans les dernières années pour d'autres sujets, mais là, on parle toujours des salaires des gouverneurs généraux. On dit qu'il y a une hausse de 4,18% ou de 15 800 $ comparativement à sa rémunération de l'an dernier, et ça fait jaser. Vous parlez souvent à Nicolas Gagnon, qui est directeur de la Fédération canadienne des contribuables, et il a pris parole là-dedans. Il dit « Pendant que plein de familles peinent à absorber le coût de la vie, c'est une hausse salariale qui équivaut presque à une année complète d'épicerie pour une famille. » Et pour lui, ben, c'est absolument impossible à justifier cette hausse salariale-là, et ça fait l'actualité parce qu'on parle souvent des dépenses qui sont peut-être un petit peu trop perçues dans le coffre de tous ceux qui y contribuent, et ça en fait partie d'une autre histoire. Quelque chose un peu plus sportif, par exemple, qui commence à se faire aller au niveau, pas juste sportif, mais aussi au niveau économique et au niveau identitaire. Parce qu'on se demande à quel point ça peut être intéressant et à quel point on pourrait se laisser conquérir par des investisseurs étrangers. Au niveau du sport, on sait qu'ils ont de l'argent, ils ont les moyens de leurs ambitions. Ça fait pas l'unanimité. Beaucoup de sportifs qui ont été pointés du doigt pour faire affaire avec l'Arabie saoudite au courant des dernières années. Mais là, le Qatar a investi dans les Capitals de Washington et on tente, du côté de l'Arabie saoudite, d'investir dans le football universitaire américain. Extrêmement populaire, extrêmement payant, pour peut-être réussir à avoir une place dans la NFL par la suite. Et là, on se demande, bon, est-ce que ça pourrait être eux aussi qui investissent dans les Nordiques? Est-ce qu'ils pourraient ramener les Nordiques? Est-ce qu'on voudrait d'un pays du Moyen-Orient derrière cette bannière-là? Beaucoup de choses à jaser, autant politiquement, économiquement, moralement là-dedans.
On en parle avec Stéphane Turcotte tout à l'heure aux alentours de 12h50. On va évidemment revenir sur le match canadien-nordique de ce soir, mais on va aussi parler de cette présence de l'Arabie saoudite. Et il y a même Jean-Nicolas Blanchette dans le Journal de Québec aujourd'hui, dans sa chronique, qui mentionne que l'Arabie saoudite pourrait nous ramener nos Nordiques. Donc, je veux qu'on parle de ceci avec Stéphane Turcotte.
Les vrais enjeux expliqués simplement. Antonin Iaccarini vous les sert clair, net et précis dans Le Caucus. On démêle ce qui compte vraiment. Comprendre, analyser, décoder. Voici Le Caucus de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Bon, Antonin. Premièrement, il faut que je t'appelle Antonin, selon nos auditeurs. Parce qu'ils disent... Ben, ils disent, Antonin a tellement un beau nom que quand tu l'appelles Anto, ça jure. Donc, si je t'appelle Anto, il faut que tu me reprennes. Faut que je t'appelle Antonin.
Non. Moi, je te reprendrai pas, mais okay. je te laisse choisir. Là, commence pas à me vous voyez, par exemple.
Madame Antonine. C'est comme ça que Bernard Drinville t'avait oui. appelé. J'aime ça.
Bel effort de M. Drinville.
Exactement. Et les auditeurs aussi m'ont texté pour dire « Jeff, tu devrais t'inspirer d'Antonine. Elle a toujours la bonne perspective. Elle n'a pas besoin de se fâcher. »
Ben. Ah, OK. Il faut quand même que je sois transparente. Dans ma voiture, disons quelques instants après l'impact, c'était moins chic un peu. Mais en ondes, j'essaie d'être un petit peu plus calme et zen. C'est une de mes résolutions de 2026. Voilà.
Alors, Antonine Iaccarini, toi qui es zen et toujours de bonne humeur, remets-moi la bonne humeur avec ton caucus Iaccarini. Et on va commencer en parlant d'un dossier, honnêtement, que je sais qui nous tient vraiment à cœur. C'est le dossier du PEC, donc du programme Expérience Québec. Si tu le veux bien, je commencerai en te faisant écouter ce que Jean-François Roberge nous a dit sur nos ondes à Boulevard 102.1 à l'émission On en jase mardi concernant la possibilité d'une clause grand-père sur le programme Expérience Québec. Et après, Antonine, tu es la meilleure personne pour nous expliquer le tout.
Réponse rapide à leur demande, non. C'est-à-dire que je ne vais pas rétablir le PEC, qui est un programme qui est fermé, pour lequel on ne fait que traiter les dossiers qui ont déjà été soumis. Mm-hmm. Par contre, il y a des gens qui disent ben c'est justement ça une clause grand-père. C'est des gens qui ont déjà été impliqués dans un programme, qui ont soumis leur dossier. On traite leur dossier dans ce programme-là avant de le fermer. C'est ça qu'on le fait. Mais ce que les gens demandent, c'est qu'ils pervertissent un peu le terme clause grand-père, puis ils disent, ben les gens qui sont arrivés en 2021, qui ont travaillé pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, puis qui pensaient un jour déposer dans le programme PEC, maintenant qu'il est fermé, voulez-vous leur donner une clause grand-père et le réouvrir pour eux? À cette question, je réponds, ben non.
Alors, voilà ce que M. Roberge nous a dit. Là, moi, ce que je comprends, c'est que, bon, les gens qui sont déjà dans le PEC, leur dossier va être analysé, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont être acceptés. Puis là, ben, si je me fais un peu l'avocat du diable, je me dis le CAC n'est pas parti pour ouvrir les valves. Donc, il y en a sûrement qui ne seront pas acceptés en se basant sur les nouveaux principes du programme spécialisé, justement, en immigration économique. Et pour tous ceux et celles qui travaillent à l'heure actuelle, et je le rappelle, sont 13 000 citoyens dans cette situation-là présentement à Québec, mais on va leur dire, oh, remplis-nous des petits formulaires. T'sais, on va te saboter la vie. Puis ça se peut qu'on te dise non aussi.
Effectivement. Puis souvent, de toute façon, ces immigrants temporaires-là doivent déjà remplir pas mal de formulaires parce qu'en immigration temporaire, il faut que tu demandes des permis de travail. C'est le fédéral qui gère ça. Je vous laisse imaginer comment ça doit être parfois frustrant avec la bureaucratie. Mais là, je reviens un peu en arrière parce que pour comprendre qu'est-ce qui se passe en ce moment, il faut regarder ce qui s'est passé depuis 2018, depuis l'élection de la CAQ. Parce que Simon Jolin Barrette, en 2018, ministre de l'Immigration à l'époque, avait réformé le programme Expérience québécoise, là, qu'on appelle communément le PEC, et il avait resserré les critères. Et lui, les dossiers qui étaient déjà dans le pipeline, il les avait mis dans la déchiqueteuse. Okay? Donc ça avait fait grand scandale il y a quelques années, et on avait fini par rétablir ces dossiers-là. Il y avait eu une clause grand-père, mais c'est la ministre suivante, Nadine Giraud, là, qui avait lâché un peu de lest là-dessus. Mais Simon Jolin Barrette devait baisser drastiquement les seuils. Ensuite, c'est Christine Fréchette qui devient ministre de l'Immigration dans le deuxième mandat de la CAQ. Et là, c'est là qu'il y a eu l'erreur, à mon avis. Il y a eu plusieurs erreurs en immigration, mais la CAQ a déplafonné le PEC. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès que quelqu'un remplissait les critères, il était admis, peu importe les seuils d'immigration. Donc là, on ne contrôlait plus le nombre comme tel. Et vu la grande présence de gens qui sont dans des situations d'immigration temporaire au Québec. Sais-tu qu'il y en a combien de jobs des immigrants temporaires au Québec?
Il y en a combien?
600 000.
600 000 personnes. Donc, est-ce que le PEC peut toucher à ces 600 000 personnes-là? Le retrait du PEC devrait agir?
Ben oui, c'est ça qui est en train de se passer. C'est que là, pendant 2 ans, on a dit à ces gens-là, le message qui a été envoyé, c'est tu vas pouvoir t'essayer dans le PEC, puis si tu remplis des critères, c'est quasiment sûr. C'est sûr que tu es admis, finalement. Alors que, dans la vraie vie, il y a un seuil, puis à un moment donné, c'est fini. Mais là, on avait ouvert ça. C'est drôle, là, venant d'un gouvernement caquiste, d'avoir fait cette action-là, d'avoir pris cette mesure-là.
Hey, je t'arrête deux secondes, Anto. Là, ça veut dire que pendant qu'on se plaignait que le fédéral ouvrait les valves en immigration, on faisait pareil.
Hey, en fait, oui, mais il y a beaucoup de ces immigrants temporaires-là qui sont sous le régime fédéral aussi. Okay. C'est-à-dire que c'est une responsabilité partagée. Puis c'est vrai que la CAQ n'a pas fait grand-chose pour contrôler l'immigration temporaire dans le premier mandat. Il y a des choses plus difficiles à contrôler que d'autres aussi, notamment les demandeurs d'asile. Là, ça, c'est quelque chose qui est un peu difficile à planifier. Mais du côté des étudiants internationaux et des travailleurs étrangers temporaires, il n'y a à peu près rien qui avait été fait. Donc là, on s'est retrouvé avec un grand nombre d'immigrants temporaires et un PEC, donc de l'immigration permanente, complètement déplafonné. Donc, évidemment, si tu es sur le territoire, tu vois que ce programme-là qui existe, tu te dis, moi, je vais avoir une porte d'entrée pour l'immigration permanente. Tu t'installes, tu apprends le français, tu fais des plans de vie, là. Il y en a qui ont des enfants, qui ont leur famille ici, etc., etc. Et là, tout à coup, Jean-François Robert, je dis, là, ça n'a plus de bon sens, on ne respecte pas nos seuils, parce qu'on s'est fixé des seuils de 50 000 au Québec en ce moment. Donc, il dit, on va refermer le programme et on va faire des changements dans l'autre programme d'immigration permanente, le PRTQ, vous m'excuserez tous les acronymes ce matin, et les gens vont pouvoir appliquer dans celui-là et peut-être se qualifier, mais ça va respecter aussi nos seuils. On s'est mis des seuils à 50 000, on les respecte. Là, tout le monde sort pour dire, ben, évidemment, il y a plein d'histoires terribles, là. Il y a des gens qui, puis moi, ça me tire les larmes, là. Je suis très, très, très sensible à ça. Que les règles ont changé et que maintenant, ça ne fonctionne plus. Mais là, par exemple, quand les libéraux, cette semaine, en caucus, disent « Nous, on va la promettre, la clause grand-père. » Parfait. J'ai 2 questions pour vous. C'est quoi les critères? Parce que, est-ce que les 600 000 personnes vont bénéficier d'une clause grand-père parce qu'ils ont pensé éventuellement s'inscrire dans ce programme-là? Ou est-ce qu'on parle des dossiers déjà en cours? Parce que le dossier en cours, le ministre l'a dit, il va les traiter. Puis ma deuxième question, c'est dans ce cas-là, à combien vous voulez les mettre, les seuils? Donc là, ce qui se passe, c'est que le ministre Roberge, demain, va annoncer qu'il va y avoir des ajustements qui vont être faits pour le PRTQ. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir des seuils de 200 000, là. Ça n'arrivera pas. Il faut quand même être réaliste, là. Puis c'est triste, j'ai beaucoup d'empathie pour les personnes, mais ça n'arrivera pas. Et va annoncer qu'on va prioriser les gens déjà ici. Okay, donc ça, c'est une lueur d'espoir pour quand même pas mal de personnes, quelques dizaines de milliers au moins, ça ne va pas couvrir tout le monde. Puis ce qui est terrible aussi pour les personnes qui sont en situation d'immigration temporaire et qui souhaitaient rester, c'est que le fédéral aussi a décidé de couper drastiquement. Il s'est réveillé lui aussi sur la quantité d'immigrants temporaires et veulent en couper à peu près 170 000. Donc, les gens qui pensaient qu'ils avaient le temps, qu'ils pouvaient renouveler leur permis de travail ou leur permis d'études, un petit peu là, se donnant de l'oxygène pour avoir le temps d'atteindre les critères du PEC, bien là, ils voient la fenêtre se refermer. C'est ça le drame aussi, c'est qu'il y a deux choses, deux paliers de gouvernement qui ont changé leurs règles en même temps. Et là, la fenêtre se referme brusquement devant leur nez. Et là, il y a des maires qui sortent. Moi, dans ma région, j'en ai. Et là, on a des exemples. Moi, j'ai des cuisiniers, ils parlent français. Pourquoi on les renvoie? Ça n'a pas de bon sens. Les travailleurs de la santé, ils parlent français et on en a besoin. Ça n'a pas de bon sens.
Ben oui, plein de préposés aux bénéficiaires. Il y a Alstom à la Pocatière qui risque de perdre 175 employés alors qu'on a des contrats par-dessus la tête de 2,3 milliards. De dollars.
Puis là, ces histoires-là, là, ça, on en a des milliers, des milliers et des milliers. Mais à un moment donné, il faut quand même faire une addition. C'est pas juste ma région, mon entreprise. Il faut les additionner puis se demander, OK, est-ce que vous êtes prêts, les Québécois, à augmenter vos seuils pour les prochaines années, alors qu'on parle de crise du logement, crise des services publics, etc. C'est un choix de société, là. Puis il faut se poser la question. Mais c'est pas vrai qu'on peut le prendre région par région. Il faut avoir une vision qui est globale et ça veut dire que les seuils qu'on s'est fixés à 50 000, ben ça ne tient plus. Et oui, on paye le prix des décisions et des montagnes russes de politique publique en immigration, mais là, c'est ça la situation dans laquelle on se trouve présentement, ce que je trouve déplorable parce qu'avec une meilleure planification, si on ne gouvernait pas en dents de scie en immigration, on pourrait éviter les situations qu'on connaît présentement. C'est extrêmement triste humainement et c'est aussi déplorable économiquement pour plein de régions, plein d'entreprises, mais c'est ça la situation dans laquelle on est. Donc, c'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser au premier regard.
En effet, c'est un domaine très complexe. C'est de trouver les bons seuils d'immigration. Je retiens, Antonine, avec qu'est-ce que tu nous dis que Charles Milliard, quand il nous dit hier sur nos zones, « Hey, je vais la mettre la clause grand-père », c'est plus compliqué que ça. Je me fais l'avocat du diable deux secondes. Par exemple, ce monde-là ont déjà des logements. Fait que l'argument crise du logement... On dirait qu'il ne m'atteint pas, moi, pour cette particularité-là.
Oui, tu as raison, mais en même temps, regarde les taux d'inoccupation dans les municipalités. Il y en a des gens qui cherchent des logements et à un moment donné, il y a un impact
c'est
aussi
vrai
sur les coûts des logements.
Ouais, tu as raison,
Il y a un impact sur l'itinérance. Par contre, il faut faire attention comment on le présente. Ce n'est pas de la faute des immigrants si on a une crise du logement. Mais si tu regardes économiquement, il y a un impact quand même quand tu as une forte immigration. Puis 600 000 immigrants temporaires, ça a un impact. Et c'est très dommage aussi pour, parce que je pourrais vous en parler pendant une heure, mais les établissements d'enseignement en ce moment qui ont vu les règles changer aussi, qui comptent sur les étudiants internationaux pour, disons, remplir certains programmes qui n'existeront plus si on a juste les Québécois qui les ont dans certaines régions. Là, il y a trois personnes qui veulent faire le cours. Fait qu'ils vont pas ouvrir une classe pour trois personnes. Et c'est aussi, ils payent plus cher les étudiants internationaux pour aller dans nos établissements. Donc, c'est un moyen de financement. Quand les règles changent sans arrêt, comment voulez-vous, comme établissement d'enseignement, planifier les prochaines années, les infrastructures dont tu as besoin, etc. Donc, il faut vraiment qu'on arrête les montagnes russes. Malheureusement, je suis un peu cynique parce que l'élection s'en vient, ça n'arrivera pas. On nous promet des clauses grand-père inapplicables, le PQ va nous promettre de couper les immigrants de manière drastique. Donc, malheureusement, je pense que les dents d'ici vont continuer en immigration et c'est vraiment déplorable.
Antonine, moi, je te nomme ministre de l'immigration demain matin. Donc, Oui, exactement.
Je suis
le ministre de l'Immigration.
La sécurité publique aussi.
Ça va bien aller.
Merci. OK.
Sécurité publique.
J'accepte.
Ouais. T'es pas occupé pendant tout. Anto, on saute à pieds joints dans la crise politique de la journée parce qu'on en a plein depuis une semaine. On a le discours de Mark Carney sur les plaines, le discours à Davos. On a plein de le discours de PSPP dimanche, la réplique de Marc Macron-Tanguay avec ses lunettes. Et là, Doug Ford a parlé hier. Il a dit ça n'a pas de sens. Délire, le PQ à la tête du Québec parce qu'ils veulent se séparer de notre Canada uni. On écoute la réplique de PSPP ce matin à l'entrée de son caucus à Saint-Georges-de-Beauce.
Évidemment que Doug Ford travaille pour les intérêts de l'Ontario. Donc, quand il se présente comme la personne qui veut notre bien, je pense que les gens ont tous un petit sourire. Et évidemment, on peut regarder dans l'histoire récente... Puis je sais que l'histoire, des fois, il faut faire attention, mais on peut regarder dans l'histoire récente, il y a quelques mois, il était en train de voler nos médecins en tentant de profiter d'une négociation difficile entre François Legault puis les fédérations de médecins. On peut regarder justement cette publicité envoyée aux États-Unis sans aucune coordination avec le Québec, mais qui se transforme en des menaces très sérieuses de tarifs. Donc,
Doug Ford et son unité canadienne, je dirais plus que c'est une unité ontarienne. T'sais. quand Mark Carney s'en va en Chine pour signer un deal, il crie au scandale parce que c'est son industrie automobile. Quand on arrache avec nos médecins, il dit « Quand j'ai une opportunité là, je vais arracher des médecins au Québec. » Quand l'Alberta brandit le pétrole, il dit « Hey, ça tombe bien, moi, j'ai des usines de transformation de pétrole, fait que je vais accompagner l'Alberta. » Il n'est pas en unité canadienne pantoute, Doug Ford. Là.
Non, je pense pas.
Je te l'apprends.
Hey, je tombe en bas de ma chaise.
Ben, c'est ça que je pensais. Je suis content.
Je pensais qu'il travaillait pour le bien commun de tous les Canadiens.
J'ai appris quelque chose, Antonine Iacarini. Une étoile dans mon cahier, s'il vous plaît.
Écoute, Doug Ford, effectivement, qui essaie d'être capitaine Canada là, depuis un an et qui se bat très fort là, pour... Je ne sais pas s'il y a des ambitions de devenir premier ministre du Canada un jour. J'aurais tendance à penser que oui, je ne le connais pas personnellement. Mais j'adhère à tout ce que Paul Saint-Pierre Plamondon a dit dans sa réaction. Là. Effectivement, M. Ford travaille pour ses intérêts et ceux de l'Ontario. Puis, ça me rappelle à quel point c'est important de bien connaître notre histoire. Je sais que ça intéresse pas tout le monde, hein, l'histoire, là. Puis c'est des fois, ça peut sembler un peu aride. Mais pourquoi il faut connaître notre histoire? C'est parce que l'histoire se répète toujours. Et là, quand tu as connu le référendum de 1995, c'est toutes des affaires qu'on a déjà entendues en 1995. Il a le béguin pour nous. Il nous aime. Je pense que bientôt, Doug Ford va organiser le Lovin 2.0.
Mais je comprends même pas en quoi ça Montréal. Console. Je comprends même pas en quoi ça console par rapport aux propos. T'sais, le gars, il aime ça, là, faire du marketing avec des propos du type. Puis là, il est rendu qu'il trippe sur nous autres. Là. Honnêtement, là, ça peut être gênant là, que Doug Ford trippe sur nous-mêmes.
C'est un peu gênant. C'est un peu gênant. Et je te dirais par contre que l'aspect émotif de « je vous aime », tout le monde roule des yeux puis rit. Okay? Ça, c'est clair. Par contre, le plus grand adversaire du Parti québécois et de la souveraineté, en ce moment, c'est l'insécurité, c'est l'instabilité avec les États-Unis. Les gens sont anxieux et ça peut continuer de jouer dans la tête des gens. Il y a quand même des électeurs là, en ce moment qui disent qu'ils vont voter pour le PQ à la prochaine élection et qui disent qu'ils voteraient non. Donc, c'est sûr que le PQ ne peut pas être complètement rassuré en voyant que, non seulement, évidemment, il y a une mobilisation puis qu'on joue sur l'anxiété des électeurs, mais aussi de voir à quel point M. Carney demeure populaire. Des derniers sondages ont montré que les taux de satisfaction étaient très élevés, que les gens appuyaient l'entente qui a été signée avec la Chine, par exemple. Donc, le PQ essaye de taper sur Mark Carney et sur le Canada. Et de l'autre côté, les Québécois sont assez satisfaits. Puis, je finis là-dessus, mais le Bloc québécois, ça va pas très bien en ce moment dans les sondages. Puis ça, c'est pas un très bon signe pour le PQ, parce qu'au fédéral, il y a beaucoup d'électeurs québécois que ça faut pour qu'ils votent. C'est un petit peu plus compliqué. Alors qu'au Québec, il pourra avoir des alternatives bientôt. Là. J'entends, je vais vous le dire, là, beaucoup de gens autour de moi qui sont pas des caquistes ou des péquistes convaincus, mais qui regarde Christine Fréchette aller, là, présentement dans sa course à la chefferie, et j'entends des libéraux, des solidaires me dire « Si Christine Fréchette gagne la course à la chefferie de la CAQ, ça se peut que je vote pour la CAQ à la prochaine élection. » Je la trouve rassurante. Elle a une expertise économique. On a besoin de quelqu'un de calme pendant la crise avec les États-Unis. Ça, j'ai beaucoup, beaucoup entendu ça. Donc, pas évident pour le PQ. Et je trouve que Christine Fréchette est différente de Mark Carney, mais cette espèce de calme et d'aura économique, ils ont ça en commun.
C'est le même profil, t'as entièrement raison. Pour faire une petite parenthèse sur le Bloc québécois, on est passé de 38% à 26% dans les intentions de vote.
Pas des bonnes nouvelles, là.
Ah, vraiment pas. On a justement parlé avec Victor Henriquez hier. Antonine, pour compléter cet excellent caucus, je veux jouer un quiz avec toi. T'es prête?
Je suis prêt.
Il faut que tu me dises qui tu entends ces deux personnes dans le prochain extrait. Je te le fais jouer.
Ah, ben là, rendu là, moi, on va pas s'immiscer dans les chicanes entre le Parti québécois et le Parti libéral.
C'est le passage du discours de Paul Saint-Pierre.
Ben, écoutez, dans l'échelle de tout le monde qui devrait s'excuser, je pense que c'est pas le premier.
Là. Sérieusement, là, les Québécois nous regardent. On est en année électorale. Les gens, je le vois, moi, je suis sortie là, des épiceries, des magasins à une pièce et partout. Les gens, ils ont peur. Ils savent pas comment ils vont finir la fin.
Mais Anto, qui sont ces deux personnes? À qui sont ces voix?
Mais ça me dit vraiment quelque chose.
Ouais.
Je sais pas trop.
Ah, je pense que le premier, c'était Sol Zanetti. Mais est-ce que Québec solidaire existe encore? Je n'en ai pas entendu parler depuis longtemps.
Écoute, c'est la semaine des caucus présentement. C'est la rentrée parlementaire la semaine prochaine. Puis c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses, là.
Ouais.
Mais ils sont complètement invisibles. Même les libéraux ont eu un petit peu de difficulté à exister dans les derniers temps, mais Québec solidaire est complètement invisible. Et moi, je pensais que QS, c'était quand même un parti souverainiste. J'avais eu cette impression-là là, pendant un bout de temps. Je sais qu'il y a des gens qui vont m'écrire et me dire que c'est pas vrai. Mais c'est un parti souverainiste. Seul Zanetti, c'est un souverainiste convaincu. Mais ils veulent pas se mêler des chicanes. On dirait que j'entendais un libéral parler, honnêtement.
Oui, exactement. Et la deuxième personne, c'était Ruba Gazal, la co-porte-parole aussi Québec solidaire. Québec solidaire est censé être un parti indépendantiste. On a eu un discours de Mark Carney qui a défait complètement l'histoire des Plaines d'Abraham. Je dis ça, puis je dis rien.
C'est ça. Là, ça, c'est le nouveau discours. Là, on parle juste des vraies affaires, puis on parle du vrai monde. Je veux juste annoncer, là, il n'y a pas de fausses affaires. Il n'y a pas de faux monde dans la vie. Puis tu peux défendre le portefeuille des Québécois puis leur pouvoir d'achat puis d'aller faire leur épicerie en même temps que tu te tiens debout comme nation puis que tu dénonces les propos de Mark Carney.
Exactement. Oui. Antonine Iaccarini, toujours un plaisir et un bonheur de t'avoir en ondes avec nous.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Bon week-end. Salut, c'est Antonine Iaccarini, caucus avec Antonine du lundi au jeudi aux alentours de midi. Bon, on dure ça jusqu'à 12h30. C'est toujours un plaisir de jaser avec Antonine. Pascal, on fait un arrêt. Et dans un instant, à Boulevard 102.1, on va avoir deux choses très intéressantes. Premièrement, une chronique politique municipale avec Alicia Despins, où on va sortir notre primeur sur les camps de jour. Donc, restez à l'écoute, ça vaut vraiment la peine. Je sais qu'il y a énormément d'auditeurs de Boulevard 101 qui, lorsque ça va être le temps de l'inscription au camp de jour, vont avoir la tablette d'ouverte, le portable, le cellulaire, la grand-mère et le grand-père vont avoir la même affaire. La blonde du chum, si c'est du père, si c'est une famille recomposée, va avoir tout ça d'ouvert aussi. On va essayer de se brancher à 8-9 places différentes pour avoir des places en camp de jour. Mais là, vous ne croirez pas à ce qu'on va vous dire. Et Stéphane Turcot, Pascal, va venir s'asseoir en studio avec nous autres parce que ce soir, c'est le match. Le match nordique versus canadien. J'ai pris une décision. Je m'en vais directement dans un magasin sportif après le show. Je vais m'acheter mon gilet des Nordiques. Je m'assois à côté de mes gars qui vont leur gilet du Canadien à soir. Je vais te dire une affaire. La rivalité va revivre dans le salon des Fortins. Ça te convient, ça, Pascal?
Ça me convient.
Excellent. L'émission d'En Jase sur Boulevard 101.
Vous trois? Comment on va passer à travers les 7 années de construction du tramway? C'est plus des broches, c'est un dentier, là. C'est quoi qu'on dit aux gens, mettons, à partir de la mi-mars?
Bien, d'abord, c'est ce qu'on voulait faire, puis on voulait le faire vite, puis moi, j'insistais là-dessus, là, pour que les gens aient l'information.
Mais, M. Marchand, que ce soit dans le cas des hôpitaux, dans le cas des commerces, dans le cas des salles de spectacle, est-ce que c'est des gens qui ont été consultés avant qu'on arrive avec le résultat et les propositions d'aujourd'hui?
On fixe pas l'échéancier de tramway.
Mérite qu'il y a de mieux. Et vous trouverez tout ce qu'il lui faut chez Dino. Nourriture, gâterie, cage, jouets, aquariums, litières. Ils ont le plus grand choix au Québec. Commandez en ligne sur dino.ca.
Ça, c'est le son d'une Toyota Prius hybride branchable qui utilise le moteur à essence pour une escapade à l'extérieur de la ville. Et ça, c'est le son de la Prius qui utilise l'énergie de sa batterie pour un dîner à l'extérieur du bureau. Deux extrêmes, une Prius hybride branchable avec jusqu'à 962 km d'autonomie combinée. C'est l'heure de conduire la vôtre, c'est l'heure Toyota. Découvrez de nouveaux modèles emballants comme la Prius hybride branchable. Visitez htmatoyota.ca ou votre concessionnaire Toyota du Québec aujourd'hui.
Vivez dans un immeuble qui se distingue à la tête des ponts. La Forêt Québec propose des unités avec une vue exceptionnelle sur le fleuve, du studio au 5,5, ainsi qu'une formule tout inclus. Espace commun complet, commerce au rez-de-chaussée et plus. La Forêt Québec, audacieusement bien pensé.
Le 8 février, c'est le match ultime de football. Et pour l'occasion, les N-Bars de Normandin et Miller Lite t'offrent une promo digne des ligues majeures. Ton billet à 10$ te donne droit à une consommation, nachos, prix de présence et spéciaux toute la soirée. Mais surtout, il te donne la chance de gagner 2 places pour monter à bord de l'autobus N-Bar pour un voyage de foot avec rêve sportif. 2 places seront attribuées dans chacun des N-Bars le soir du match, une valeur de 1 200$. Réserve ta place dès maintenant sur restaurantnormandin.com.
Vous voulez connaître l'état d'un bâtiment lors d'une vente ou d'un achat? Faites appel à Groupe Inspec. Eux, ils sauront vous aider. Leur inspecteur chevronné vous accompagne dans le processus d'inspection et ne laisse aucune question sans réponse. Résidentiel, commercial, industriel, soumission au Groupe Inspec avec un K.com.
Envie de vivre des expériences qui sortent de l'ordinaire? Découvrez les extravagances carnavales carnavalesque du Carnaval de Québec en collaboration avec Loto-Québec. Amateurs de sensations fortes, tentez la descente en rappel sur le Fairmont, le Château Frontenac. Plutôt du type party, la nuit blanche carnavalesque présentée par Pop Underwear vous attend. Jouez aussi au Laser Game Evolution à la Citadelle, propulsé par Weekend 91.9. Et nouvelle expérience, vivez l'ambiance du Sud à la façon du Nord avec Caillou Carnaval au Spa des Neiges.
102.1
avec Jeff Fortin et Pascal CV.
Oh, ce show-là roule sur les chapeaux de roue. C'est votre émission dans Jazz, midi 40 exactement. Votre émission du midi, de midi à 14h sur les ondes de Boulevard 101. Par la suite, c'est le retour de Gravel avec Denis Véro et Audrey de 14h à 18h. Et Marceau du soir avec un chroniqueur qu'on a à On en Jazz, Victor Henriquez, qui va jaser d'actualité avec Yannick Marceau. Je manquerai pas ça, c'est certain. Moins 16 à l'heure actuelle, moins 26 avec le refroidissement éolien. Moins 13 demain, possibilité d'averse de neige. Moins 10 et moins 12 pour samedi dimanche, ensoleillé. Donc, le soleil sera en rendez-vous. Pour ce week-end, un petit peu moins frisquet, donc on va pouvoir aller faire des activités à l'extérieur. Pascal, grosse nouvelle qui est tombée dans le camp du Parti libéral du Québec. On s'en va officiellement vers un couronnement.
C'est une grosse nouvelle, mais on s'en attendait.
Oui, exactement.
On avait Charles Milliard en entrevue en passant hier. Vous pouvez toujours reprendre l'entrevue au blvd.fm dans la section On en jase. Mais officiellement, Mario Roy ne va pas obtenir le feu vert pour la course à la direction du Parti libéral du Québec. Donc, la voie est libre pour Charles Milliard. On devrait savoir officiellement le 13 février que ce sera lui là, qui sera reconnu chef, en fait, du parti, mais aussi... s'il souhaite être reconnu candidat, mais tu sais, on s'entend, c'est clair, là, c'est clair, Charles Milliard, ce qu'il veut faire avec le Parti libéral. Il se sent en selle, mais voilà, Mario Roy s'est tombé en termes de candidature.
Donc, normalement, 13 février prochain, couronnement de Charles Milliard, et il pourra commencer, justement, à monter son équipe du ouais. PLQ. Ça va être une course électorale très intéressante à l'automne avec des nouveaux joueurs. Charles Milliard, la nouvelle personne qui dirigera la CAQ, soit Christine Fréchette ou Bernard Drainville. Un PSPP dans une deuxième campagne électorale, un Éric Duhaime qui gagne en popularité avec le PCQ. Je voyais le dernier sondage dans Chicoutimi, 23% pour le Parti conservateur du Québec. Alors, ça va être très intéressant à suivre. Quelque chose qui est intéressant à suivre aussi, même si c'est très questionnant pour les citoyens, c'est les retombées du budget municipal. Parce que le maire Marchand nous avait dit « Ouais, je fais des coupures ». Pour garder les taxes en bas de l'inflation, mais ça n'aura pas d'impact sur le citoyen. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est que ça a énormément d'impact. Et pour en parler avec nous, on a notre chroniqueuse politique municipale, ex-conseillère municipale de Vanier-du-Berger, Alicia Despins. Alicia, comment vas-tu?
Ça va bien. J'espère que vous autres aussi.
Oui, ça va très bien. Alicia, avant qu'on passe à ce qu'on sait déjà, j'ai reçu une primeur concernant les camps de jour. Je connais pas mal de monde, moi, dans le domaine des organismes communautaires. Puis hier, il y a quelqu'un, là, je vais parler à l'ancienne, qui a cogné à ma porte, toc, toc, toc. Puis il a glissé une enveloppe brune. Et là, dans cette enveloppe brune-là, il y avait des informations confidentielles. Lors du budget de la Ville de Québec, on a mentionné qu'on allait couper 700 000 $ du côté des camps de jour pour la prochaine année. C'est un budget d'à peu près 10 millions de $ les camps de jour à la Ville de Québec. À ce moment-là, Luc Monty, directeur général de la Ville de Québec, lorsqu'il avait été questionné à huis clos par Stéphanie Martin, excellente journaliste au Journal de Québec, a mentionné « On va gérer les dépenses qui entourent le programme de façon plus serrée, mais sans enlever de place. » OK, vous me suivez? Sans enlever de place.
Ça semblait clair, net et précis.
Clair et net et précis.
C'est ça qui a rassuré
pas,
les parents.
En plein ça, il n'y aura pas moins de place dans les camps de jour. Puis là, Alicia, tu le sais, tu l'as vécu comme conseillère municipale. Le camp de jour, c'est un gros stress pour les citoyens parce qu'il faut qu'ils se branchent sur 6 appareils différents pour souhaiter avoir une place dans leur camp de jour à 68 $ par semaine. Eh bien, Alicia, l'information que j'ai eue, qui est de source très fiable et très fidèle, c'est que la Ville de Québec a annoncé aux dirigeants des camps de jour en rencontre cette semaine qu'ils vont couper 6 % des places pour respecter leurs 700 000 $ de coupe. Et on va également couper dans les sorties à l'extérieur du camp de jour. Donc, plus de sorties à l'extérieur du camp de jour, 6 % moins de places. C'est ça les coupures de Bruno Marchand. Alicia, ça n'a pas de sens comment on ne prend pas soin des citoyens.
Ben, c'est énorme comme nouvelle là, qu'on apprend aujourd'hui. 6 % là, c'est en tout cas, de ce que je calcule, là, 900, peut-être 1000 places, tu sais, c'est 1000 familles là, qui vont chercher. Parce que ces places-là, à chaque année, ils sont prises. Là. L'année passée, il y avait 15 000 places offertes dans les PVE à Québec, puis il y avait plus que 18 000 enfants qui en ont profité, parce qu'on peut s'inscrire juste à la semaine. Hein. Mm-hmm. On se souvient, là, pas nécessairement pour tout l'été. Là, on apprend aussi que les comptoirs de services vont être fermés dans les arrondissements. Ça s'ajoute aux fermetures de patinoires de quartier. Clairement, Bruno Marchand, il a choisi de ne pas annoncer ces mauvaises nouvelles lors du dévoilement du budget en décembre. Puis là, ben, il y a le travail journalistique. Il y a évidemment les organismes là, qui apprennent ces nouvelles-là aujourd'hui puis qui sont obligés de se tourner sur une scène, se réorganiser pour l'été. Les inscriptions, ça arrive vite, là, dans 2 mois, je pense. Là. Fait que finalement, c'est toutes les mauvaises nouvelles que Bruno Marchand a choisi de ne pas annoncer lors du budget en décembre qui reviennent maintenant fin janvier 2026, alors que l'année est déjà en cours. Là.
Puis là, Alicia, je fais un calcul hyper rapide, OK? Puis là, tu vas me dire, « Ah, Jeff, t'es une mauvaise foi parce que le déneigement des pistes cyclables, tu n'y as jamais vraiment cru, OK? » Je te fais mon calcul. 700 000 $ pour les camps de jour, la coupure. On veut couper l'équivalent de 19 patinoires extérieures. Quand tu fais le calcul, c'est à peu près 400 000 $ Donc, on est rendu à 1,1 million de dollars. Puis déneiger piste cyclable, c'est 1 million. Qu'est-ce qui sert le plus aux citoyens? Les patinoires extérieures et les camps de jour ou les pistes cyclables?
Bien, dans les trois cas, c'est des services aux citoyens. Là, l'exercice qu'il faut faire, finalement, c'est dire lesquels sont plus prioritaires pour l'administration. Je pense que dans le cas, disons, du déneigement des pistes cyclables, clairement, Bruno Marchand, lui, il met ça en haut de sa liste des priorités. Mais ce qui n'est pas cohérent dans le choix qu'il fait en ce moment avec les camps de jour, ces coupures-là, c'est qu'il avait aussi mis ça dans ses priorités, pas plus tard que mars de l'année passée. Bruno Marchand, il sort avec Marc-Pierre Boucher pour annoncer qu'ils vont limiter la hausse du coût à l'inflation en disant que ben on veut pas que les parents prennent de vacances forcées, on veut qu'il y ait une place pour chaque parent. Il se vantait, hein, je sais pas si tu t'en souviens, c'est on est les meilleurs par rapport au reste du Québec, ça coûte moins cher, il y a plus de places ici qu'ailleurs, c'est important pour les familles. Puis là, ça, c'était juste avant la campagne électorale, le budget des camps de jour avait augmenté. Puis quelques mois plus tard, après l'élection, le budget y est coupé. Donc, il y a un enjeu de cohérence ici. Puis, clairement, Bruno Marchand, dans ses priorités, il ne peut pas tout faire. Puis il a choisi de couper dans un service direct aux familles plutôt que de couper, par exemple, comme tu le nommes, dans le déneigement des pistes cyclables.
C'est inquiétant ce qui arrive, Alicia, puis corrige-moi si je me trompe, parce que là, on voit énormément de coupures auprès du citoyen, puis on ne sait pas quand est-ce que ça va arrêter, bureau d'arrondissement, patinoire, camp de jour, t'sais. On s'en va vraiment vers une très grosse diminution des services aux citoyens, alors que même si on a l'augmentation de taxes et sous l'inflation, les taxes augmentent quand même à chaque année.
Oui, exact. Puis les gens s'attendent à des services. Hein. Quand les services sont là, quand on les coupe, ça fait un choc. Là. Ça fait un choc pour tout le monde. Je pense qu'on peut tous s'entendre. Puis je serais vraiment surprise là, d'entendre des commentaires à l'inverse que les camps de jour, c'est un service sur lequel les familles comptent. On a besoin de ça. Il y a des enjeux économiques liés à ça. Là. Je parlais de vacances forcées. Là. Si les parents ne sont pas capables de trouver des places à moindre coût pour leurs enfants cet été, ils sont obligés de prendre plus de vacances, du moins pour au moins un des parents. C'est compliqué. Ça rend la vie des gens compliquée. Puis c'est pour ça que quand tu as un niveau de base de service dans une ville, tu t'attends au minimum à le maintenir d'année en année. Après ça, oui, c'est un enjeu budgétaire. Là. C'est pas simple de faire ces coupures-là. Mais je pense pas que dans ce choix-là que Bruno Marchand a fait, c'est le choix le plus intelligent. On constate, hein, t'en parlais au début, là, que Luc Monty, DG de la ville, avait dit « il n'y aura pas de place coupée. Mm-hmm. » Et finalement, il y a des places coupées. Est-ce que ce budget-là, il y a eu des changements? Est-ce qu'il a été mal évalué? Est-ce qu'on peut s'attendre à plus de mauvaises surprises au fil des prochaines semaines? On dirait que c'est ça que ça annonce. Là.
Exactement. Carl qui écrit par texto. Avant, on parlait de la guerre à l'auto. Finalement, je trouve que Marchand entre en guerre idéologique contre les citoyens. Et justement, Alicia, je veux te faire entendre un extrait de Bruno Marchand, un de ses discours qu'il a fait au sortir des élections.
On n'est pas là pour ceux qui nous ont élus, là. On est là pour 100% des citoyens. Et notre travail, c'est de le faire dans l'humilité. Je pense que je l'ai déjà dit relativement souvent depuis l'élection. Et c'est de faire en sorte de toujours être capable de se questionner. Sommes-nous meilleurs? Puis, vous savez quoi? Si on pense que parce qu'on a une majorité, on ferme les écoutilles à entendre les gens, bien, je vous l'ai annoncé, c'est le contraire qu'on veut faire.
Pour rappel, on parle avec Alicia Despins, chroniqueuse politique à Boulevard 102.1 et ancienne conseillère municipale dans Vanier-du-Berger. Alicia, elle fait complètement le contraire de ce qu'elle dit après la campagne électorale.
Ben, c'est pour ça que je parlais de cohérence, là, finalement. Les bottines ne suivent pas les babines. C'est des choses là, qu'il a déclarées à plusieurs reprises. Il se targue de ça, d'être au service de tous les citoyens, de toutes les familles, etc., de vouloir rendre la ville dynamique, attractive, d'avoir des bons services. Mais finalement, dans les actions, ça répond pas à ça. Puis je veux aussi mentionner le bout de la communication dans tout ça, parce que je peux pas croire que en annonçant ça aux organismes qui organisent les PVE, les camps de jour, il se soit pas dit, que ce soit les élus ou l'administration publique, hey, peut-être que ça pourrait couler, cette affaire-là. Est-ce qu'on pourrait pas prendre la mauvaise nouvelle de front, l'annoncer nous-mêmes, expliquer les raisons, plutôt que de laisser les organismes se dépatouiller avec ça? Peut-être, je ne sais pas s'ils s'attendent à ce que les organismes fassent eux-mêmes l'annonce de ce groupe-là, mais je trouve que c'est clairement pas à eux de le faire, c'est à la ville, c'est à Bruno Marchand d'expliquer et de justifier ses décisions.
Tu me fais une méchante belle passe sur la palette, ça tombe bien parce qu'on va parler avec Stéphane Turcot dans quelques instants du match canadien-nordique ce soir au Centre Bell. Mais pour terminer avec toi, c'est une belle passe sur la palette parce que je voulais t'entendre sur les commerçants de la ville de Québec. Bruno Marchand a fait deux conférences de presse pour annoncer, un, les travaux reliés au tramway, deux, le service du RTC, comment il va être impacté et les modifications. Il a fait ça cette semaine et il rencontre les commerçants seulement lundi prochain. Donc là, les commerçants reçoivent l'information via les médias puis ils savent même pas ce qui va leur arriver. Ça fait aucun sens si on veut développer l'économie de notre ville.
Bien, puis ce qui est embêtant dans tout ça, dans appelons ça une stratégie de communication, même si je doute là, du point de vue stratégique, de faire ça en plusieurs petits morceaux, ça fait juste accentuer ça, le besoin d'avoir des réponses, le fait que ta situation à toi, particulièrement pour les commerçants, n'a pas été abordée, n'a pas été répondue. Puis pour des commerçants, une semaine sans nouvelles, à se questionner, à se jaser entre eux, puis à pas savoir dans quelle direction ils s'en vont, c'est stressant. C'est une semaine de trop, selon moi. Ces informations-là pour le tramway, elles doivent sortir tout en même temps, de manière structurée. Ça peut pas se faire là, au compte-gouttes comme ça, avec des annonces différentes, puis des rencontres individuelles. L'information aurait dû être sortie tout en même temps. Donc, je comprends pas la stratégie, finalement. Puis, je trouve que les commerçants, ils ont raison d'être impatients face à la situation, puis d'être inquiets.
Alicia Despins, c'est toujours un bonheur de te parler. Les chroniqueuses politiques à Boulevard 102, ex-conseillère municipale de Vanier-du-Berger. On se parle la semaine prochaine parce que j'ai l'impression que ça va être un gros conseil de ville mardi prochain.
Parce que oui, ça s'annonce comme ça en tout cas.
Exactement. Merci Alicia, je te souhaite une excellente fin de journée.
Merci, bonne journée.
Salut, Alicia Despins qui est avec nous à peu près une fois par semaine pour parler de politique municipale. Toujours très intéressant de l'entendre. On rappelle la primeur qu'on a reçue à Boulevard 102.1, les coupures de 700 000 $ dans le budget de la ville relié au camp de jour. Même si Luc Monty, le directeur général de la ville, avait dit au huis clos budgétaire à Stéphanie Martin, excellente journaliste au Journal de Québec, qu'on va gérer les dépenses qui entourent le programme de façon plus serrée, mais sans enlever de place, eh bien, à Boulevard 102.1, on a su en primeur que c'est 6 % des places en camp de jour qui vont être coupées pour l'été prochain, 418-971-1021 pour réagir.
J'ai dû sortir de la conversation parce que je veux qu'on le mette un peu sur nos réseaux sociaux et tout, puis je prenais les mots exacts hein, qui ont été un peu prononcés là-dedans pour Alicia Despins, entre autres. Je reviens sur sa phrase. Juste avant la campagne électorale, le budget des camps de jour avait augmenté puis quelques mois plus tard, après la campagne, ben, le budget est coupé. Elle dit, il y a un enjeu de cohérence ici, surtout quand on plaidait qu'on était les meilleurs, qu'on savait mieux faire que bien des endroits, que c'était notre priorité, que les familles étaient notre priorité. Pour elle, il y a un enjeu de cohérence ici qui est fort exprimé. T'sais, c'est pas de place pour vos enfants dans les 40 jours cet été pour plusieurs. 16 % ça semble faible en termes de pourcentage quand on le met en termes de nombre d'enfants qui ne pourront pas fréquenter un 40 jours et donc que les parents vont devoir peut-être prendre des vacances, chose que Bruno Marchand plaidait impossible et même inconcevable ici dans sa ville, ben c'est 700 000 $ de moins prévu dans le budget de la ville. Là. C'est une bonne somme. Chose certaine, ça va peut-être ruer dans les brancards parce que c'est ça qui faisait le plus réagir dans les dernières années, juste au niveau de la façon d'être dans la complexité pour inscrire son enfant. Les listes d'attente, et tu imagines s'il y a moins de place.
Les citoyens sont fâchés. Les citoyens ont l'impression d'en s'en être fait passer des petites vites avec Bruno Marchand. On n'avait jamais parlé de patinoire qui allait fermer. Jamais parlé de moins de place au niveau des camps de jour. On avait camouflé vraiment l'impact des travaux du tramway. Donc, je les comprends, les soyez d'être fâchés. Ouais. C'est rare, je suis fâché, puis je suis fâché présentement.
Mais c'est dans plein de temps. C'est sûr que tu te rends compte, il y a le pas entrepreneurial, les gens qui se disent pas avoir assez d'informations. Là, t'as le pas familial dans la ville de Québec, puis t'en ajoutes. Au niveau des patinoires, puis je vais peut-être me faire dévisager parce qu'on a un homme de sport ici, là, en studio.
Oui, c'est ça. Fais attention à ce que tu dis, Stéphane Turcot est installé.
Tu sais, les patinoires, c'est fréquenté, mais c'est vrai que c'est des sommes faramineuses annuellement. Mm-hmm. Est-ce que de couper certaines, ça va faire en sorte qu'on n'aura pas d'accessibilité? Moi, je pose un point ici d'interrogation.
C'est un bon point.
Je suis pas convaincue. Surtout nos hivers, hein, c'est un petit peu aléatoire là, comment on est capable de servir. Puis, de nombreuses patinoires sont fréquentées, mais d'autres aussi sont un petit peu désertes selon les secteurs. Si ça, c'est évalué, puis ça nous permet de remettre un peu d'argent dans les coffres, mais d'en avoir tout encore, puis de se ramasser à des endroits où il y a plus de jeunes qui jouent ensemble et tout ça, ça peut être favorable au bout du compte. Les 40 jours, ben c'est une nécessité pour les parents.
Ça remplace l'école.
Ça, c'est une autre chose.
Je suis clairement d'accord avec toi.
On en jase. Jusqu'à 14h, on en jase.
Bon, Pascal, on va se défâcher.
Il m'a pas trop dévisagé, je suis contente.
Non, puis on va se défâcher parce que là, on va parler de quelque chose d'exceptionnel qui va se produire ce soir au Centre Bell.
Oui.
Les Nordiques de Québec reprennent vie. L'Avalanche du Colorado qui met les chandails des Nordiques de Québec.
Mais là, c'est pas les vrais de vrais. Pourquoi vous êtes aussi heureux, contents? C'est la fibre nostalgique.
C'est les vieux nostalgiques, c'est ça. Stéphane Turcot, journaliste sportif à TVA, qui est avec nous en studio. Stéphane, merci d'être avec nous.
Merci de me recevoir.
T'es-tu aussi nostalgique que moi? Moi, là, 7 heures à soir, il n'y a rien au monde qui peut me déplacer de mon divan, ma TV, mes deux gars vont avoir leur chandail des Canadiens, moi je vais avoir mon chandail des Nordiques, puis on va s'assassiner comme dans le temps que j'entendais ma mère s'assassiner avec mon père, parce que mon père prenait pas le Canadien, ma mère prenait
les Nordiques. Il manque juste une chose, les anciennes compagnies de bière là, auraient dû sauter là-dessus.
Oui, je vais aller me chercher une grosse O'Keefe, puis je vais la boire à soir.
Moi, je suis pas super excité, je suis pas indifférent quand même, là, mais je trouve que c'est un beau clin d'œil que l'organisation du Colorado fait aux Nordiques de Québec, aux 30 ans du départ de l'équipe, aux 30 ans d'existence de l'Avalanche au Colorado. Puis j'ai hâte de voir l'ambiance ce soir au Centre Bell parce que, tu sais, il y a une forte majorité de gens qui vont être là qui savent absolument rien ou pratiquement rien de l'histoire des Nordiques de Québec. Fait que je sais pas, là, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que les Bleus vont être hués anti-pêchés ce soir.
Ah ouais, ça va me faire mal. Mais les quelques partisans avec leur chandail bleu, je suis
certain
qu'ils vont
être brillants.
Ah ouais, ils vont en avoir, c'est clair. Est-ce qu'on est trop chauvin, Stéphane, quand on dit, parce que ce matin, dans l'émission Marceau le matin, j'ai dit, c'est la plus grande rivalité de l'histoire de la Ligue nationale nordique-canadienne. Ah, oui. Puis là, on a demandé aux gens 418-971-1021 de nous mentionner d'autres rivalités. Puis si, justement, ils répondaient encore au 418-971-101, si vous avez hâte au match de ce soir, si vous allez être nostalgique. Puis là, les gens se disent « Ah, Boston-Philadelphia, Boston-Montréal. Ah, on m'a raconté Edmonton-Calgary, la bataille de l'Alberta. » Mais c'est les Canadiens contre les Nordiques, la plus grande rivalité.
Je pense que les plus grandes histoires des rivalités de la Ligue de l'histoire de la Ligue nationale de hockey, ça a été Québec-Montréal. Et ça culmine avec la fameuse bataille du Vendredi Saint. Mais tu sais, il y a eu des confrontations en série. La première fois que les Nordiques remportent une série contre le Canadien de Montréal.
1982, de mémoire. Dale Hunter.
Exactement, Dale Hunter qui marque. Puis je me rappelle, au retour à l'aéroport ici, il y avait 5, 6, c'est pas 10 000 personnes qui attendaient les Nordiques. il y a eu tellement des points forts dans cette rivalité-là là, que tu peux pas faire autrement de dire que c'était la plus belle des rivalités de la Ligue nationale de hockey. Les autres, il y en a une des belles, là, mais tout sport confondu, je te dirais que les Yankees et Red Sox, c'est peut-être la rivalité, là, mais dans la Ligue nationale de hockey, c'est Canadien-Nordique.
Est-ce qu'on va voir des joueurs peut-être oubliés qui sont au sein de l'Avalanche puis embarqués dans cette genre de folie-là nordique-canadienne? Est-ce qu'on sent qu'on va se décoller un peu notre équipe pour le show?
Je le sais pas. Je m'en venais ici puis je me disais, les Cale Makar, les Nathan MacKinnon, qui n'ont pas 30 ans, qui n'ont pas connu les Nordiques, je suis pas sûr, eux autres, qu'ils comprennent exactement ce qui se passe puis s'ils vont se mettre dans le mood là, justement de la rivalité. Mais c'est sûr et certain que les gens qui vont être dans les estrades ne seront pas indifférents puis vont avoir une réaction. Ça risque. C'est déjà très, très, très bruyant là, au Centre Bell. Là, pour, tu peux, je pense, Jeff,
ben oui.
le dire. Il y a un amour fou inconditionnel des gens de Montréal.
L'aréna le plus bruyant de la Ligue nationale de hockey.
Mais ce soir, là, ça risque de monter de quelques décibels. Puis je pense pas que les joueurs de l'Avalanche se sentent nordiques. Là. Il y a peut-être, je sais pas, il y a peut-être un vieux nordique qui va débarquer dans le vestiaire avant le match.
Ben, Joe Sakic, leur directeur général.
Ben, pourquoi pas, puis donner l'alignement de départ comme on fait souvent. Là. Peut-être que oui, il va avoir... Parce que là, Joe va être là ce coup-ci, parce que la dernière fois, il était en Europe.
Oui, exactement. Du côté du Canadien de Montréal, il y a plusieurs joueurs francophones. Je pense notamment à Philippe Dano qui est revenu. Je pense surtout à Zachary Bolduc qui a grandi à Québec dans le hockey junior. Pour eux, ça va être spécial, par exemple.
Oui, ça assurément, là, surtout un gars comme... même Philippe Dano. Philippe habite dans la région de Québec.
T'as entièrement raison.
Il s'entraîne ici l'été, habite dans la région de Québec. Je pense qu'il ne sera pas insensible à la situation. Zachary Bolduc l'a peut-être encore plus vécu parce que lui a joué pour les Remparts, a joué pour Patrick Roy, a entendu parler des Nordiques, a porté le chandail bleu des Remparts en hommage aux Nordiques. Alors, lui, effectivement, le 76 du Canadien sera peut-être le plus sensible à ce qui va se passer ce soir.
Mais sinon, est-ce que ça pourrait mettre de la pression? Tu sais, aujourd'hui, on voyait là, dans l'actualité, l'Arabie Saoudite pourrait peut-être ramener les Nordiques et tout ça. Est-ce encore des lubies où ça peut ramener quelque chose de vrai si on voit que le Centre Bell est plein et que les gens sont enthousiasmés?
On ne peut pas être contre la vertu, mais dans un horizon à court ou moyen terme, là, je vois pas le retour des Nordiques. Puis je vois pas l'intérêt, puis tu sais, je le dis froidement, là, je vois pas l'intérêt de la Ligue nationale à revenir ici à Québec alors qu'on explore d'autres marchés qui ont réussi à être très profitables pour la Ligue nationale. T'sais, Vegas. T'sais, personne ne croyait à Vegas. Là. Tout le monde disait le sport professionnel n'ira jamais à Vegas. Ben, c'est pas vrai. Là. Ils ont un club de hockey, ils ont un club de football, ils vont avoir un club de baseball. Puis dans l'aréna, qui est la même configuration, parce que je suis allé à l'aréna à Vegas, même configuration, pareil que le centre Vidéotron. Quand je suis allé, c'était NHL Locker Room, puis de l'autre côté, c'était NBA Locker Room. Fait que, tu sais, tout s'en va là. Fait que, tu sais, la Ligue nationale profite de Vegas, profite de Seattle, Utah, Salt Lake City, ça va pas si mal. Alors, dans un horizon là, à court-moyen terme, là, je vois pas pourquoi on reviendrait ici à Québec.
On parle avec Stéphane Turcot, journaliste sportif pour TVA. On parle évidemment du match Canadien-Nordique. Moi, je ne jouerai jamais Canadien-Avalanche ce soir. C'est Canadien contre les Nordiques.
Puis là, vous allez dire, ouais, on sait bien que tu ne travailles pas pour eux autres. Tu sais, RDS, là, ils pourraient faire un petit effort.
Ben oui!
Tu mets le logo des
Nordiques. Oui, on joue le jeu. Là, on joue le jeu, certain.
C'est du sport après tout.
Si les gens sont au rendez-vous, ben, du pain des jeux, t'es gâte.
C'est exactement. Ah oui. Puis lâche une coupe de Nordique. Puis, rappelle des souvenirs de l'époque, tes anecdotes.
Pourquoi on n'embarque pas là-dedans? Les contrats sont tellement établis.
Je pense qu'il y a un peu de ça.
OK.
Puis ils sont peut-être pas aussi sensibles que nous à Québec à la situation quand que ça arrive.
Ouais.
Mais tu je dis, mais je trouve que c'est du niaisage.
C'est de la faute du Canadien, Steph. En 1979, ils n'ont jamais voulu qu'on rentre dans la Ligue nationale. Ils sont encore en train de nous bloquer.
Tu sais que ça a pris du temps avant que Jeff Molson dise « OK, c'est correct, c'est vous pourrez porter le chandail des Nordiques le 29 janvier au Centre Bell ». Tu vois à quel point là, le fantôme fait encore peur aux gens de Montréal. Mais je leur souhaite, puis je souhaite une victoire 7-2 comme la dernière. Non, ajoute-en un 8-2.
8-2. Ah oui, une vraie raclée, ça serait le fun. Martin McGuire sur les ondes de Cogeco va les appeler les Nordiques comme la dernière fois. Ça, je trouve ça vraiment trippant. Stéphane, je termine avec toi justement. Pascal l'a mentionné, l'Arabie Saoudite dans le sport. Puis là, l'Arabie Saoudite qui ajouterait les Nordiques. Là. C'est une hypothèse émise par Jean-Nicolas Blanchette dans le Journal de Québec aujourd'hui. Mais moi, je vais dire la même chose que j'ai dit pour le deal Canada-Chine en économie. Moi, les valeurs sont très importantes. Je ne voudrais pas des Nordiques qui reviennent par l'Arabie Saoudite. T'es-tu dans mon équipe?
Oui, oui, parce que... Et ça, c'est ce que les pays arabes font avec la livre, notamment. C'est l'achat de beaucoup d'équipes de soccer professionnelles en Europe, c'est comme pour bien paraître, blanchir un peu peut-être les points noirs de leur attitude. Mais en bout de ligne, je pense que la Ligue nationale de hockey aurait son mot à dire
oui.
sur un investissement potentiel et futur de l'Arabie saoudite.
C'est clair, la NBA qui a modéré les investissements chemin de l'Arabie saoudite à 5 % dans leurs équipes. Donc, pas près d'avoir un propriétaire non plus de l'Arabie saoudite au niveau du basketball professionnel.
Non. Puis je pense pas que ça va arriver à Québec.
Yes. Stéphane.
J'aime bien Jean-Nicolas Blanchette, là, mais je pense qu'il est dans le champ, cette foucoute-là.
Stéphane, Christian nous rappelle en terminant que c'est 23 saisons des Nordiques, 31 de l'Avalanche. Christian, arrête de gâcher le parti.
Exactement. C'est pour le match, là, c'est pour les vieux fous comme nous autres. C'est tout.
Ça. Exactement. Stéphane Turcot, c'est toujours un bonheur quand tu viens nous voir en studio. On se refait signe prochainement, certainement.
Merci de l'invitation.
Cool. Salut, Stéphane. Bye. C'était Stéphane Turcot, journaliste à TVA pour Journaliste sportif. On parlait en vieux nostalgique des Nordiques puis du Canadien français. Elle me fait du bien, moi, Pascal,
je
aujourd'hui,
vois,
de parler des
vois.
Nordiques.
Les gens en parlent au 88-97-101.
Ah oui, ça me tempère. Je suis heureux. Ce soir, je vais vivre une belle soirée avec mes gars. Je vais sûrement me chicaner avec eux. Non, c'est pas vrai. On va se chicaner à la blague, mais j'ai déjà vu des conversations de mon père et maman, Pascal, le hockey.
Ouais, c'était sérieux.
C'était important. C'était sérieux. Là. Ils ont peut-être déjà passé proche de se divorcer. Là.
C'est pas trop petit de même.
On fait une courte pause à l'émission d'Angers sur Boulevard 101. Et au retour de la pause, on fait quelques manchettes et ce sera Rémi Villemur, l'excellent chroniqueur et excellent animateur au 99.5 Montréal qui va être avec nous. On va ramener cette histoire-là, Doug Ford, PSPP, la séparation, Doug Ford, l'unité canadienne, on va parler de ça avec lui. Puis il veut nous parler également de Charles Milliard qui trouve complètement dans le champ. Tu sais, toi hier, t'as dit Charles Milliard, c'est un sadomasochiste.
De retourner en politique, là, ouais, sur, ben, pour rescaper le Parti libéral, il faut le mettre en contexte. Là.
Ouais, c'est ouais. ça, puis lui, il trouve complètement dans le champ d'avoir dit que Jean-François Roberge, qui se joint à Christine Fréchette, c'est le baiser de la mort. Donc, on parle de ceci après la pause à Boulevard 101, l'émission d'En Jazz.
Au showroom avec nos salles de bain modèles. 90-30 John Simon, sortie Chauveau sur Henri IV. Entrepôtdelaréno.com.
Kimono Sushi Bar offre les meilleurs sushis à Québec. Plus de 60 choix, passant du classique saumon fumé au caviar déperlant. Sur place ou à déguster dans le confort de votre foyer. Commandez en ligne au kimono.com. Offert en livraison et à emporter, Charlebourg et Sainte-Foy.
La remise météo fait son grand retour cette année chez Enviro-Confort. Économisez gros sur votre facture avec 15 % de remise en janvier, 10 % en février et 5 % en mars. Et c'est sans parler des subventions. L'offre est disponible jusqu'au mois de mars sur les thermopompes murales et centrales. Profitez-en pendant qu'il fait encore froid. Financement disponible. Détails au enviroconfort.com.
Passe-temps 3000, c'est le magasin où vous trouverez plus de 7000 casse-têtes et jeux de société, en plus d'être la référence en téléguidé au Canada. De l'inventaire, on en a une foule d'idées cadeaux et jeux à s'offrir pour la Saint-Valentin. Passe-temps3000.com, 455 rue Soumande.
Vous mangez vos émotions? Vous voulez perdre du poids? La solution, c'est Perte de poids Québec. Nous avons tous les produits et services pour votre amincissement. Infrathérapie, protéines, mets préparés, suppléments naturels. Suivez-nous sur Facebook et visitez Perte de poids-québec.com.
Le nouveau Toyota BZ 2026 est arrivé sur nos routes. Avec encore plus d'autonomie pour aller toujours plus loin, encore plus de puissance pour une expérience de conduite exaltante et un temps de recharge rapide optimisé avec le préconditionnement de la batterie. Comptez sur 25 ans d'expertise avec les véhicules électrifiés. C'est l'heure de rouler électrique. C'est l'heure Toyota. Pour un temps limité, vous pourriez obtenir jusqu'à 6 000 $ en rabais gouvernemental et incitatif client. Visitez achetermatoyota.ca ou votre concessionnaire Toyota du Québec pour toutes les conditions.
Avec plus de 34 ans d'expérience, l'Univers du Verre, c'est le spécialiste du verre. Que ce soit pour une douche, une rampe ou une clôture de piscine, nous sommes fabricants de nos propres quincailleries d'installation. Venez nous visiter au Salon Expo Habitat Québec, à notre salle de montre ou sur universduverre.com.
Ça va faire 138,55 $. Avez-vous la carte d'insolvabilité?
Pardon?
La carte fidélité, vous l'avez?
Quand l'endettement prend toute la place, Tremblay et compagnie syndicatorisée en insolvabilité prend le relais.
Visitez TremblayCIE.com.
Vous cherchez un entrepreneur pour la construction de votre maison ou pour des rénovations qui vous assurent une qualité de construction exemplaire? Construction Maurice Bilodeau, avec son équipe fiable et compétente, vous accompagnera à chaque étape avec son service client irréprochable. Visitez le MauriceBilodeau.com.
Faire des crêpes bretonnes, c'est un art. Et le Petit Coin Breton le maîtrise depuis 1963.
Et c'est bon, Petit Coin Breton.
C'est vrai ça, Alex. De la préparation de la pâte jusqu'au moment de la déposer sur la plaque.
La jambon fromage avec champignons. Miam!
Comme je disais...
Banane choc. Crème glacée.
Wow! Oui, Alex, c'est bon au Petit Coin Breton.
L'actualité présentée par Alimentation Première. Des protéines de qualité et un service pensé pour simplifier votre quotidien. Visitez alimentationpremière.ca.
102.1. Boulevard te tient informé toute la semaine. Marceau le matin, 6h. Le Pit Stop avec Gravel, 7h45. Oh. Le Point de Max, 10h. On en jase le midi. Gravel dans le retour, 14h.
Juste Gravel dans le retour peut faire ça.
Marceau le soir, 18h. Boulevard 102.1. Maintenant 100% parlé en semaine. 100% talk. Boulevard 102.1.
On en jase, midi à 14h. C'est votre émission d'actualité. À Boulevard 102, on analyse le tout avec les meilleurs chroniqueurs. Rémi Villemur qui s'en vient dans quelques instants. Vous l'adorez, vous donnez toujours des bons commentaires. Pascal CV et moi, on analyse le tout également. C'est vraiment trippant faire cette émission de radio-là pour vous, chers auditeurs. On jase de sport aussi, puis Yannick qui nous dit « Go Nordique, go! Le but d'Alain Côté était bon, mais hein, on s'est fait voler par Carey Fraser. » Pascal, on n'a pas pu éliminer le Canadien à cause de cet arbitre-là qu'on a détesté toute notre vie après. Donc, on parle de sport, on parle d'actualité. On fait vraiment le tour complet de ce qui vous intéresse et de ce que vous devez savoir. 418-971-1021, justement, pour communiquer avec nous, comme Yannick, qui m'a rappelé le but d'Alain Côté. BLVD.fm, c'est nos meilleurs moments et ça inclut également notre web radio. L'application Boulevard sur App Store, Google Play Store, téléchargez ça immédiatement. Ça vous permet de nous écouter partout où vous êtes. Vous avez un petit Alexa chez vous, comme moi j'ai depuis le temps des fêtes. Bien, vous dites écoutez BLVD et ça va vous amener directement à nous. Twitch.tv, /BLVD, /FM. Donc, on a justement Daniel sur Twitch qui nous dit « Marchand veut pas être associé au mot coupure, il vient du milieu communautaire. » Ouais, mais il n'y aura pas le choix à un moment donné de le dire qu'il fait des coupures puis des coupures de service. Et également, YouTube, abonnez-vous à notre page. Vous allez notamment avoir le visuel de nos podcasts hors série ce mardi. C'est moi-même avec mon cousin Éric Légaré, porte-parole pour l'Association de prévention du suicide du Québec. On fait un podcast sur nos expériences qu'on a vécues en lien avec nos idées noires et nos tentatives de suicide. Et on souhaite vraiment venir là, sensibiliser les gens. La semaine prochaine, Pascal, c'est la semaine de prévention du suicide, la semaine nationale.
Puis c'est des discours vraiment lumineux au final, hein, parce que oui. vous avez croisé votre X sur cette route-là du après.
Exactement.
Vous êtes dans des endroits où vous n'avez jamais été aussi heureux. Fait que ça, c'est super intéressant aussi de voir ça, parce que si ça concerne des gens, en passant, il y a toujours le 1-866 appel, mais
oui.
Il y a quelque chose après. Puis c'est souvent ce que ces gens-là ne voient pas, je pense, si je ne me trompe pas. Hein.
Oui, tu as entièrement raison. La suite, l'après. Quand tu es dans tes idées noires, tu ne penses pas que le futur peut être beau.
Mm-hmm.
Puis moi, bien, 7 ans plus tard, je le vis vraiment de façon très intense, la belle beauté de la vie. Avant qu'on parle avec Rémi, Pascal, qu'est-ce qu'on a à suivre dans l'actualité?
Bien, je reviens certainement sur ce qu'on a sorti dans les dernières minutes, soit qu'il y aura coupure dans les camps de jour si vous pensez avoir une place pour vos enfants, parce que Bruno Marchand avait plaidé le fait que c'était dans ses priorités, que les parents n'auront pas à prendre de congé, qu'on veut à Québec continuer d'être les meilleurs. Bien, il y a un petit quelque chose là-dedans parce qu'on a annoncé aux directions des camps de jour, l'intention de couper 6% des places disponibles dans les camps de jour pour l'été prochain. Ça semble pas beaucoup, mais c'est 700 000 $ de moins dans le budget 2026 en ce qui concerne les camps de jour. Alors, des coupures quand même assez importantes. Ça sera la chasse aux places en camp de jour. Ça sera encore plus difficile. Et le directeur général de la Ville de Québec, Luc Monty, avait dit le contraire en décembre. Hein? Avant l'élection, ben, on avait plus de places, on allait gérer ça en priorité. Après l'élection, on se rend compte, finalement, il y a des coupures. Il y a un nombre de sorties offertes aux jeunes aussi qui sera réduit. La Ville va maintenir les coûts d'inscription à 68 $ malgré les coupures. Il y a eu toute une conversation là-dessus avec Alicia Despins, qui était autrefois bien placée à la Ville de Québec sous l'ère La Bombe, pour nous jaser de ça. L'entrevue est disponible sur le site de Boulevard, donc le BLVD.fm. Sinon, officiellement, Charles Milliard sera couronné, là, on va le dire comme ça, le 13 février.
Oui, le 13
prochain,
février.
À moins qu'on arrive avec une nouvelle candidature dans
à
le
un
décor.
Un jour de la Saint-Valentin.
Pour le Parti libéral du Québec. Alors, si à moins que quelqu'un arrive là, comme ça, là, ben, ça ne sera pas Charles Milliard, peut-être, qui sera automatiquement couronné. Mais la voie est libre en ce moment pour son couronnement à la tête du Parti libéral du Québec. Pourquoi? Ben, parce que Mario Roy n'a pas obtenu le feu vert à sa candidature. Alors, Charles Milliard a vraiment toute la latitude devant lui. Sinon, on vient d'apprendre que l'opposition à Québec va dévoiler un rapport sur l'impact du chauffage au bois sur la santé. C'est le Parti municipal Respect citoyen. Alors, l'opposition au parti du maire Marchand, qui veut et s'engage à publier mercredi prochain un rapport qui concerne tout ce qu'on a à savoir, selon eux, sur les poêles à bois, sur la santé humaine. Et Stéphane Lachance, qui en est le chef, n'a pas dit l'identité de l'auteur du rapport. Il était en entrevue et il a précisé que c'était un expert universitaire en environnement qui l'avait élaboré. La Ville de Québec va fermer la moitié de ses comptoirs de services, donc une baisse d'achalandage qui a été constatée. Et donc, on a procédé à la fermeture de 3 comptoirs de services aux citoyens. Et ça va se faire graduellement jusqu'à la mi-mars. Ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire une réaffectation des ressources dans d'autres comptoirs de services, alors soit ceux des arrondissements de Charlebourg, de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge et de la cité Limoilou. Ça regroupe plus de 80 % des transactions annuelles. Alors, on va devoir suivre ça avec attention, c'est certain. Et je terminerai avec des séparatistes albertains qui ont rencontré des représentants de l'administration Trump. Et ce sont des leaders du mouvement de l'indépendance de l'Alberta qui ont voulu jaser à Trump. Ça s'est fait l'été dernier à Washington. Et il y a des figures influentes du mouvement MAGA qui semble vouloir donner un élan à l'option. C'est une information qui a été confirmée aujourd'hui par le Financial Times qui cite des sources au fait des discussions.
Merci beaucoup, Pascal CV. Parlant de cette unité canadienne, on va rejoindre Rémi Villemur, excellent chroniqueur ici à Boulevard 102 à l'émission On en jase, toujours aux alentours de 13h15, sa chronique, et également animateur au 99.5 Montréal. Rémi, t'as des nouvelles sur Doug Ford, c'est-à-dire des nouveaux commentaires qu'il vient d'émettre à la suite de sa petite chicane qui a commencé avec PSPP sur l'unité canadienne, puis le PQ, ça n'a pas de bon sens la souveraineté.
Bien, en fait, c'était prévisible, c'est-à-dire que Doug Ford, avant de vous dire ce qu'il a rajouté, c'est quelqu'un qui a un profil, disons, il a l'air d'un homme un peu orgueilleux, là. Il a l'air d'un gars qu'il fait quelque chose, on y explique que ce n'est pas une bonne idée, puis il continue pareil de le faire. On se rappelle à peu près tout le monde disait que ce n'était pas une bonne idée de verser des bouteilles d'alcool devant les caméras parce que, tu sais, pour dire à Donald Trump, on s'en fiche de ton alcool, il continuait pourtant de le faire. Donc, il a dit, parce qu'on lui a demandé de se prononcer à nouveau, de dire peut-être même « est-ce que vous vous êtes trompé hier? » Il a dit « j'aime les Québécois, je ne sais pas pourquoi, mais il y a une connexion entre moi et les Québécois. » Ah bon? D'ailleurs, je devrais commencer à... Écoutez bien ça. D'ailleurs, je devrais commencer à apprendre le français. Je connecte avec eux. Chaque fois que je rencontre des Québécois, on se comprend tout de suite. Alors, j'aime les Québécois.
Mais est-ce que ça a sens même... unique, ça, Rémi, cet amour-là qui semble être si important, si précis, si net, ou finalement, c'est juste les médecins qui ont émigré vers son comté qui sont considérés comme étant des grands fans de Doug Ford et Doug Ford bien en amour
c'est
avec
ça,
eux?
Là, l'amour envers Doug Ford est moins documenté que l'amour désormais documenté entre Doug Ford et les Québécois. Moi, c'est le... Je devrais peut-être apprendre le français qui m'a fait capoter parce qu'en Ontario, il y a énormément de francophones.
C'est une province officiellement bilingue, Rémi.
Non, il y a juste une province qui est officiellement bilingue au Canada, puis c'est le Nouveau-Brunswick.
OK, mais je croyais.
Le Canada est bilingue, mais tu sais, il y a des franco-ontariens, là, il y a des dizaines de milliers. Il aurait dû apprendre le français pour eux. Hein? Il devrait pas apprendre le français pour les Québécois. Ouais. Donc, il y a quelque chose d'absolument ridicule ici, là-dedans. Donc, il continue. Il lâche pas le morceau. Il pense qu'il fait la bonne affaire, sauf que l'ennui, c'est qu'il commence à mettre des mots dans la bouche des souverainistes. Dans le livre bleu, le troisième chapitre qui a été publié au mois de décembre, là, juste avant Noël, les péquistes, ça n'a pas fait beaucoup couler d'encre. On dit on fera pas de référendum dans la première année, peut-être même pas dans la deuxième. On va attendre que Donald Trump ne soit plus au pouvoir. Là, Doug Ford dit aujourd'hui que les souverainistes, s'ils prennent le pouvoir, ils vont déclencher un référendum tout de suite. Donc, ça, c'est faux. C'est factuellement inexact, là. C'est prêter des intentions à un parti qui est de plus en plus clair sur ces intentions-là. Là, moi, ce que je trouve trippant, hein, pour ne pas dire enlevant, C'est la réaction de nos fédéralistes au Québec, parce qu'on en a une gang de fédéralistes au Québec, là, à la gang au Parti libéral du Québec, on a à la CAQ, on a au Parti conservateur, et il n'y a pas vraiment, tu sais, au Parti libéral du Québec, hier, Marc Tanguay disait, écoutez, nous, on est le parti qui va défendre le fédéralisme, donc, tu sais, en voulant dire à peu près à Doug Ford, tu sais, laisse-nous notre terrain de jeu, mais ça fait leur affaire, ça fait quand même leur affaire, ces sorties-là. Parce que ben, c'est moins de travail, c'est quelqu'un d'autre, hein, quelqu'un qui vient d'un autre univers politique, c'est le Canada, c'est l'Ontario, qui vient dire hey, aux Québécois, ça ne sera pas une bonne idée. Donc, pour le moment, on dirait que ça fait leur affaire, sinon je ne m'explique pas pourquoi ils ne réagissent pas de façon plus frontale en disant écoutez, laissez-nous nous occuper de ça, c'est de l'ingérence, c'est ci, c'est ça, c'est ci, c'est ça. Mais moi, je ne suis pas sûr hein, que parce que ça fait leur affaire, c'est une bien bonne affaire pour eux. Hein, des fois, on se trompe sur ce qui fait notre affaire. On pense qu'on fait une bonne affaire, puis finalement, on s'est trompé. Je ne suis pas bien sûr. Là, je lis Twitter depuis tantôt. Il y a beaucoup de fédéralistes qui disent si ça continue de même, on va voter oui.
Mais c'est ça. C'est qu'à avoir un capitaine Canada comme Doug Ford qui tire partout, puis là, tantôt, tu as donné l'exemple des bouteilles d'alcool. Je vais te rappeler les publicités aussi diffusées aux États-Unis qui n'ont pas fait l'affaire de personne au Canada. À force d'avoir un capitaine Canada qui n'a pas de crédibilité, ben, t'amènes les gens à s'en aller dans le camp du nationalisme.
Oui, puis tu sais, depuis évidemment que Mario Roy, on a compris qu'il n'allait pas être le prochain chef du PLQ, ça, je ne sais pas si vous avez vu ça passer, c'est sûr ouais. Que là, on est sûr qu'on n'a pas de prochain grand... non, mais je niaise, Mario Roy. Mais effectivement, c'est compliqué pour le Parti libéral du Québec en ce moment parce que Marc Tanguay joue le rôle de ce chef par intérim, mais personne ne le prend vraiment au sérieux parce qu'on sait qu'il ne sera pas le vrai chef. Charles Milliard se fait très discret depuis le début de la course à la chefferie. Très discret. Parce que il observe. Et il a compris que c'est compliqué pour lui de se faire valoir. Et il a même peut-être, je pense, compris que les Québécois sont plus intéressés par cette course-là que par le couronnement qui s'en vient au Parti libéral du Québec. Il n'y aura pas de course au Parti libéral du Québec. Hein? On va se ranger derrière quelqu'un qui est arrivé deuxième la dernière fois.
Mais serré quand même, là, derrière Pablo Rodriguez.
Au deuxième tour, mais au deuxième tour, ça ressemblait à un résultat référendaire, puis plus au référendum de 80 qu'au référendum de 95. Donc... on en a déjà parlé, les amis, là. Les gens ont choisi le multiculturalisme, le trudeauisme, ils ont choisi ce parti libéral-là ouais. à la dernière compétition là, entre tout le monde. Donc, Milliard arrive avec une autre vision complètement qu'il va imposer, puis je ne le dis pas de façon à sous-entendre que c'est autoritaire, mais il va imposer ça aux membres, il va être couronné. Donc lui, il n'est pas sorti du bois, là. Hein? Il va falloir, lui, il dit que c'est le parti des francophones, que c'est le parti des régions. J'ai bien hâte de le voir aller, là. Hein? Je pense qu'assez rapidement, il va retourner, il va regarder l'électorat qui vote soviétiquement pour lui, puis il va leur donner ce qu'ils veulent, là.
Non, t'as entièrement raison.
Tu penses qu'il va plier, toi?
Mais bien sûr qu'il va plier. Qu'est-ce que ça lui donne? Qu'est-ce que ça lui donne d'essayer de gratter, de gratter, de gratter, de gratter, de gratter pour aller chercher un électorat qui ne veut rien savoir de lui, alors qu'il y a un autre électorat qui est complètement différent sur le plan idéologique. J'entends les gens issus de l'immigration et les anglophones de Montréal. Eux, ils disent juste, garde, on est là, puis donne-le-nous, tu sais, parle de nous. Parce que c'est la seule affaire qu'ils demandent, c'est d'être représenté. C'est normal, c'est de la politique. Donc, je pense qu'il y a des bonnes intentions. Charles Milliard, c'est un chic type. Mais la facilité, là, ça gagne le cœur de n'importe quel homme et de n'importe quelle femme au bout de la, en fin de compte. À un moment donné, quand tu te rends compte que c'est comme pas possible de le faire, puis là, la CAQ risque de reprendre un peu de points de pourcentage dans les sondages avec une nouvelle chef ou un nouveau chef, ben c'est ça. Le naturel va revenir au galop.
Parlant de Charles Milliard, il nous a expliqué hier sur nos ondes en entrevue, c'est disponible sur le blvd.fm, qu'est-ce qu'il voulait dire par le baiser de la mort de Jean-François Roberge à Christine Fréchette lorsqu'il a donné son appui à Mme Fréchette?
Les gens vont apprendre à me connaître. Je suis quelqu'un d'assez imagé. Là. J'aime bien essayer d'illustrer ce que je pense. Ce que je voulais dire par là, un peu à la blague, c'est que dans le fond, on ne peut pas prétendre vouloir être un premier ministre à caractère économique et s'allier avec des gens qui ont été ceux qui ont le plus nui aux entrepreneurs dans les dernières
années. Qu'est-ce que vous voulez
dire? Bien, sur les politiques migratoires, les entrepreneurs sont quand même assez clairs qu'il manque de monde dans nos entreprises. Puis c'est pas juste une histoire de Montréal-Laval, c'est une histoire de Bas-Saint-Laurent, de Côte-Nord, partout.
Bon, je comprends. Comme tu l'expliques, sa stratégie, c'est de se ranger derrière la clientèle immigrante. Mais tu sais, quand la CAQ vient pas se mêler de ta course à chefferie, va donc pas te mêler de l'autre. Je me trompe-tu?
C'est un bon point. C'est un bon point, mais tu sais, en soi, la course à la chefferie, qui est désormais, je l'ai dit, un couronnement au Parti libéral, ça n'intéresse pas suffisamment de monde, là. C'est pas District 31 ou Stat, mettons, là, hein? La course à la chefferie au Parti libéral du Québec. Là, moi, ce que j'ai compris, puis je suis content que vous ayez fait jouer là, l'explication de Charles Millière, parce que on va lui donner le bénéfice du doute. Quand il dit quelque chose, puis qu'il dit « voici pourquoi je l'ai dit », on va lui donner le bénéfice du doute. Moi, par contre, j'ai lu autre chose dans cette sortie-là. Le baiser de la mort, d'accord, ça veut dire Christine Fréchette s'est associée à quelqu'un qui va lui nuire, qui pourrait même faire en sorte qu'elle perde sa campagne. Or, Jean-François Roberge, qu'est-ce qu'il représente? Qu'est-ce qu'il incarne? Il incarne les lois en matière d'immigration, il incarne la laïcité, il incarnait le courant identitaire à la CAQ. Donc, si Charles Millière a une lecture politique qui est la suivante, les idées proches de l'identitaire risquent de faire en sorte que Mme Fréchette perd sa course, ça veut dire que la tournée régionale du PLQ là, n'a servi à rien. Ça veut dire que le bonhomme est déconnecté, mais encore à 100% de ce que veulent les Québécois, de ce qu'ils demandent et de ce qu'ils exigent. Il y a bien beau parler d'entrepreneurs à percer ou de gens en estrie, je le sais que les entrepreneurs veulent plus d'immigrants, temporaires souvent, ou alors des travailleurs, je le sais ça. Mais y es-tu allé parler avec les gens qui travaillent, mais qui sont pas forcément des entrepreneurs, des gens des régions, des gens qui veulent préserver le français, des gens à Montréal aussi, dans l'est de la ville? A-t-il parlé à ces gens-là? Parce que s'il a parlé à ces gens-là, je comprends pas pourquoi il pense que cette idée... Parce que les idées identitaires de la CAQ, dans les sondages, elles sont encore majoritairement appuyées par la population québécoise. Faut pas confondre la décroissance des points de pourcentage de la CAQ et le fait que quand la CAQ parle de certaines affaires en matière d'identité, les gens seraient tout aussi contre ça. C'est une mauvaise lecture de la chose. Donc, j'ai bien l'impression qu'on va devoir retourner à la planche à dessin.
Rémi, je partage ton opinion à 100%. La décroissance de la CAQ est due à François Legault et à l'écurie du pouvoir de la CAQ et n'est pas due au fait qu'ils ont décidé de faire des lois justement sur la laïcité, des lois qui allaient renforcer l'identité québécoise. Je suis très, très, très d'accord avec toi. Rémi Villemur, c'est toujours un plaisir de te parler.
On oui, adore. À la semaine prochaine.
On adore ça. Je retiens de ta chronique que Doug Ford n'est pas le bon capitaine Canada pour le camp du non.
Oh, non. Bye bye.
Hey, bon week-end, Rémi. Rémi Villemur, animateur au 99.5 Montréal. C'est du lundi au jeudi de 18h à 19h. Et également les samedis matins de 8h à 10h en compagnie de Jacinthe Varel. Si vous êtes dans le coin de Montréal, syntonisez le tout. Puis si vous êtes toujours à Québec, ben, il est avec nous autres aux alentours de 13h15 à l'émission Dans Jase les mardis et jeudis.
N'en déplaise à M. Ford, Doug Ford, de son nom complet. J'aurais un petit sondage CV à faire au 88-971-101.
Let's go.
Vous pensez quoi, vous, Doug Ford? Êtes-vous aussi en amour qui semble être avec vous? Vous êtes Québécois, vous pouvez vous prononcer. Vous pensez quoi de M. Ford? Avez-vous les papillons dans le ventre, comme il le dit? J'ai pas l'impression que c'est une relation dans les deux sens.
Charles-Étienne qui nous écrit, ce sont généralement des gens qui se foutent du Canada, qui votent PQ. Je ne crois pas que le bien-être du ROC, donc du Rest of Canada, leur importe. C'est un coup d'épée dans l'eau de Doug Ford. Et Serge qui nous écrit par rapport à la position de Rémi sur Charles Millière. Les entrepreneurs et le conseil du patronat veulent du cheap labor. Savez-vous quoi? On adore vous lire, on adore vos opinions. Et c'est des opinions qui sont très sensées de la part de Charles-Étienne. Et Serge continue à nous écrire au 418-971-1021. Dans un instant, on parle avec Gabriel Giguère, analyste politique senior au niveau de l'Institut économique de Montréal. Pascal, on va parler d'un sujet qui va toucher beaucoup de personnes. Ces fameux médicaments qui sont hors de prix, qui ne sont pas encore approuvés par Santé Canada, mais qui pourraient te sauver de ton cancer ou qui pourraient venir complètement retarder ta maladie dégénérative. L'IEDM a fait une sortie là-dessus à Ottawa devant les parlementaires aujourd'hui. Donc, on parle de ceci avec Gabriel Giguère. Ça va être vraiment intéressant comme conversation à On en jase sur Boulevard 102.1.
Mais j'avoue que mettre des gants blancs pour ce genre d'exercice, c'est une idée qui ne me viendrait pas.
Jusqu'à 14h, On en jase.
Émission On en jase de midi à 14h avec Jeff Fortin, Pascal CV. On jase d'actualité, de sujets très importants et pertinents pour toi. Et le prochain sujet qu'on va avoir avec Gabriel Giguère en est un. Mais avant de passer la rondelle à Gabriel Giguère, à la météo, moins 16 à l'heure actuelle, moins 26 avec le refroidissement éolien. C'est moins 13 pour demain. Possibilité d'averse de neige à 30 %. Moins 10 pour samedi, moins 12 pour dimanche ensoleillé. Puis honnêtement, ça va être le refroidissement éolien va être moins senti. Donc, si vous vous ennuyez là, de faire des activités à l'extérieur, bien, ça va être un bon moment pour vous d'aller en faire ce week-end avec le beau soleil. À ton sondage CV, Pascal CV, ben, je pense que c'est clair. Doug Ford... Les gens s'en foutent un peu au Québec.
C'est pas le premier choix sur Inge politique. Hein?
Non, c'est
honnêtement,
ça.
Là, Inge Tinder, là, de la politique, on n'est pas conquis par l'homme.
Exact.
C'est une relation à sens unique pour l'instant. Doug Ford qui vous adore, les Québécois, qui en a dans des papillons dans le ventre.
Ouais. Sortie de l'Institut économique de Montréal aujourd'hui à Ottawa, on est allé rencontrer les parlementaires pour décrier le fait que les Canadiens attendent trop longtemps pour avoir accès aux médicaments innovants. Et ça, Pascal, les médicaments innovants, ouais. C'est simple. Tu vas avoir, par exemple, puis c'est un article que j'ai vu dans le journal cette fin de semaine, un homme qui a une tumeur au cerveau qui est... on appelle ça bénigne ou maligne? Maligne, hein, quand il va continuer
maligne,
à se développer. Oui, maligne. Donc, et puis là, pourrait avoir un médicament qui vient de l'extérieur, qui coûte quand même assez cher, le médicament, et la RAMQ refuse de lui payer. Donc, cet homme-là, au lieu qu'on prolonge sa vie, bon, il dit, voilà, ta marche vers l'au-delà est amorcée. Alors, c'est ce que l'Institut économique de Montréal a décrié aujourd'hui, puis je pense qu'ils font une bonne job de le faire.
Oui, surtout si un médicament, ça a été prouvé qu'ailleurs, ça fonctionne, qu'il n'y a pas vraiment dommage, parce que c'est normal d'avoir un processus pour nous protéger, pour ne pas accréditer n'importe quoi. Là où ça peut être un peu tannant, c'est quand il y a une priorité qui n'est pas donnée à quelque chose qui peut faire un grand changement et qui devrait être peut-être 24 heures sur 24 étudié pour être certain d'accréditer le plus rapidement possible. Là, c'est que finalement, tu te dis, j'ai pas été choisi pour survivre.
Exactement. Donc, c'est très cruel. Et pour en parler avec nous, on a Gabriel Giguère, analyste politique senior pour l'Institut économique de Montréal. Il nous fait une chronique d'actualité à chaque semaine dans le show On en jase. Il est au bout du fil. Gabriel, comment vas-tu?
Ça va très bien. Bonjour.
Gabriel, est-ce que c'est vrai que le Canada se classe 19e sur 20 dans les pays de l'Occident et européens en termes de longueur administrative pour l'approbation de nouveaux médicaments?
Malheureusement, oui, c'est vrai. On voit que pour pour l'approbation de médicaments, c'est très long au Canada. C'est pas nouveau. Ça prend 720 jours entre le fait que Santé Canada approuve un médicament et qu'il y a une couverture par le régime d'assurance publique en plus. Donc, vraiment, c'est long au Canada. Et ça, faut comprendre qu'il y a un impact très concret. Tu l'as bien dit, JF. Il y a des gens qui... C'est une différence de vie ou de mort. Mais il y a eu des études aussi, là, au courant des dernières années, et on s'est penché sur les dernières années et les dernières décennies, là, pour avoir vraiment une vision globale. Et ce qu'on a remarqué, là, c'est que les médicaments innovants ont permis, notamment aux États-Unis, en fait, l'augmentation de la longévité de la vie est responsable à 35% de l'innovation pharmaceutique. On peut penser notamment en matière de longévité, là, 76% de cette augmentation-là. Pour les cas de VIH aussi, c'est lié aux médicaments, les maladies cérébrovasculaires. Bref, on comprend que partout dans le monde, ces médicaments-là ont permis d'augmenter la qualité de vie, d'augmenter la durée de vie. Et au Canada, comme c'est très long, c'est périlleux, les entreprises pharmaceutiques le comprennent. Et ça, il faut comprendre aussi que ça se traduit de la façon qui est la suivante. On est moins rentable, c'est moins rentable ici au Canada. Et le gouvernement canadien, ce qu'il vient faire, c'est l'objectif, c'est de réduire le plus le prix payé par les assurances publiques. Et ça, il y a un impact très concret, parce que si vous êtes un assureur, plutôt que si vous êtes une entreprise pharmaceutique qui met des millions, des centaines de millions pour développer des médicaments, puis le pays du Canada est très, très long sur le plan administratif avant de les accepter et veut payer moins cher, bien là, c'est sûr que vous allez aller voir ailleurs. Et ça, c'est une question d'accessibilité pour monsieur, madame, tout le monde qui pourrait avoir, encore une fois, comme l'exemple en fin de semaine dans les médias où quelqu'un a une tumeur particulière au cerveau, on n'a pas nécessairement la médication, il peut y avoir un impact de vie ou de mort pour ces personnes-là. Puis ça, ben, c'est dommage que le Canada prenne cette direction-là.
Mais tu parles d'une question d'assurance et tout, mais effectivement, admettons qu'on approuve un médicament, qu'il est payé ou en totalité ou en partie par la RAMQ, si ça ne fonctionne pas et si ça crée des problématiques chez un citoyen, une citoyenne, il y aura recours juridique possible, c'est sûr. Donc, on ne peut pas être quand même contre le fait qu'il y ait des études poussées, une analyse poussée, même si ça demande un peu plus de temps, parce qu'il y en a plusieurs qui se demandent d'être approuvés. Là. À ce niveau-là, on n'est pas un peu pris avec le fait que ça doit être fait de cette manière-là, Gab?
Tu as tellement raison d'en parler parce que c'est sûr qu'il n'y a personne. En tout cas, moi, je voudrais pas entendre quelqu'un me dire non, mais on n'a pas besoin de ces tests-là. Voyons, regarde. Mais non, évidemment qu'on en a besoin, mais le fait qu'on se classe, là, comme Jeff le disait d'entrée de jeu, 19e sur 20 à l'OCDE. Tu sais, dans l'OCDE, vous allez avoir les États-Unis, la France, l'Allemagne. C'est des pays qui sont crédibles sur le plan de la santé publique. Et donc, on peut se poser quand même la question, est-il possible qu'on ait une lourdeur administrative supplémentaire par rapport à ces pays-là et des exigences peut-être? Je dirais qu'ils viennent freiner le fait de pouvoir fournir des médicaments innovants à notre population, parce qu'en réalité, si on n'a pas le bon équilibre, ce qui, je pense, n'est pas le cas, hein, quand on est 19e sur 20 en matière de délai d'approbation, ça fait en sorte que, oui, on est prudent, mais à un moment donné, il y a des gens qui pourraient avoir accès à des médicaments
mais
qui
n'ont
pas accès.
La question, c'est celle-là, Gabriel. Elle est extrêmement pertinente. Est-ce qu'on peut revoir le processus puis peut-être trouver qu'effectivement, il y a un laxisme ou une lourdeur administrative? Ce ne serait pas la première fois là, qu'on a ça en termes de gouvernement, soit au fédéral, au provincial, même au municipal. Là. Il y a quelque chose dans notre engrenage qui n'est pas bien huilé, là.
Absolument. Et là, ce qu'on voit dans la dynamique qu'on a du gouvernement du Canada, c'est qu'essentiellement, quand vous êtes un assureur public, vous vous basez sur certains comparatifs, hein, des traitements comparatifs ou à l'international pour établir un prix de remboursement maximum. Et ce qu'on voyait, c'est qu'aux États-Unis, hein, l'autre pays juste en bas de nous, les médicaments coûtent un peu plus cher en Suisse également. Donc, le gouvernement du Canada, plutôt que de se dire on conserve ces pays-là comme étant également des pays où on intègre dans notre comparaison pour s'assurer d'établir un bon prix, on décide de mettre les États-Unis et la Suisse et de rajouter d'autres pays où c'est moins cher pour tirer à la baisse le prix. Et ça, rapidement, on peut se dire, c'est OK, le Canada va vouloir réduire le prix remboursé, donc ça va nous coûter moins cher collectivement. Mais c'est un message qui est envoyé quand même aussi aux entreprises pharmaceutiques. La première des choses, c'est que maintenant, le Canada va vouloir payer moins et il y a une lourdeur administrative. Donc, faut pas se surprendre si on a moins accès à des médicaments innovants. Et ce qu'on voit notamment, c'est que les mises en marché au Canada, dans les 2 ans qui ont suivi un lancement mondial pour des médicaments innovants, en 2018, c'est 46% de ces médicaments. En 2021, c'est 31%. Donc, on voit une baisse très importante déjà et rapidement, étant donné la lourdeur administrative et le désir de tirer à la baisse les prix payés aux entreprises pharmaceutiques. Et ça, faut juste comprendre un élément qui est central. Si ça nous coûte de l'argent, il faut voir quel est le bénéfice à ce que la population reçoive ça. Il y a le bénéfice, évidemment, de la longévité. Il y a le bénéfice de dire, écoutez, la personne va vivre plutôt que mourir.
Va moins souffrir.
Absolument, mais il y a aussi un bénéfice financier parce qu'il y a des études qui ont été faites qui ont démontré que pour chaque dollar qui est investi dans des médicaments innovants, il y a une pression à la baisse sur les dépenses hospitalières de 1,05 à 1,50. Parce que si vous avez un bon médicament, vous n'irez pas à l'hôpital ou si vous y allez, votre séjour il va être moins long parce que vos symptômes vont être moins sévères. Donc cette dynamique-là, les gouvernements, notamment fédéral, doivent la comprendre pour s'assurer qu'on ait accès à des bons médicaments de qualité innovants.
Gab, et je termine là-dessus, ça veut dire que si j'incluais les États-Unis et la Suisse, et soit en passant, il y a des bons scientifiques là-bas, puis il y a des bonnes compagnies qui développent des médicaments, là, même si le coût est plus élevé, je serais toujours gagnant parce que je vais venir économiser sur mes frais en hospitalisation.
Il y a un impact direct. Donc, on ne peut pas mettre ça sur le côté, hein. Quand on se dit, ça coûte plus cher, il faut quand même prendre l'ensemble des éléments que ça vient impacter, puis le fait de réduire là les dépenses en hospitalisation, il faut que ce soit intégré dans le calcul. On veut que le gouvernement l'intègre pour comprendre que c'est, oui, sauver des vies, c'est la première des choses, rallonger les vies, il faut que le gouvernement garde ça en tête, mais c'est aussi pas un gros trou dans les finances publiques parce que ça permet de sauver de l'argent au niveau provincial pour la santé, et ça, il faut toujours le conserver pour s'assurer qu'on a accès à des médicaments de qualité innovants aujourd'hui, mais également dans le futur.
Gabriel Giguère est analyste politique senior pour l'Institut économique de Montréal. Gab, j'ai adoré cette chronique où on a fait une mise ensemble de l'économie et de la bienveillance humaine.
J'adore ça comme ça.
Yes! Merci, Gabriel. On s'en parle la semaine prochaine.
Salut, un plaisir.
Salut, Gab. Alors, Gabriel Giguère, analyste politique senior pour l'Institut économique de Montréal. Je l'avoue, moi, j'ai un billet, ça me touche beaucoup personnellement parce que ma chum Catherine, on a ramassé 85 000 $ pour l'envoyer se faire traiter en Espagne. Un traitement qui devrait l'année prochaine être approuvé par Santé Canada, mais ça va avoir pris 10 ans avant qu'on l'approuve.
C'est tellement injuste parce que tu dis... quand tu es dans cette position-là, puis on ne peut pas l'imaginer parce qu'on ne l'est pas, toi, tu l'as vécu de près, mais de se dire, hey, sais-tu qu'en 10 ans, j'aurais peut-être la possibilité de survivre? Ouais. C'est injuste.
Ben oui, c'est injuste.
Puis en même temps, on ne voudrait pas que les protocoles ne soient pas passés par cette machinerie-là. Là, on va l'appeler la machinerie, là, soit l'observation, savoir si on investit dans les bonnes affaires, parce que les relances seraient trop négatifs, ouais, là, si on n'avait pas cette structure-là.
Mm-hmm. Mais à 19e sur 20, je pense qu'il y a matière de faire mieux,
oui, y a
tout
quelque
en
chose
étant
à aller
rigoureux.
Voir.
On fait une courte pause, hein, on en jase et on vous revient avec la conclusion de l'émission. Merci beaucoup d'être à l'écoute d'On en jase sur Boulevard 101. Votre émission du midi d'information, on en jase qui tire à sa fin avec Pascal CV et Jeff Fortin. Vous allez pouvoir aller réécouter sur blvd.fm le caucus avec Antonine Iaccarini, l'excellente chronique de Rémi Villemur. On a parlé beaucoup de Doug Ford. Il y a également notre primeur qu'on a sorti aux alentours de 12h45, à savoir que la Ville de Québec, par souci de coupure budgétaire, va couper 6% des places en camp de jour. Fait que si vous êtes ceux et celles comme plusieurs parents qui courent les places en camp de jour, bien sachez que ça va être encore plus difficile. Un petit cadeau de Bruno Marchand qui vous fait « J'ai dit que je ne couperais pas les services avant la campagne électorale, mais je vais vous les couper quand même. » C'est ce qu'il vient de vous dire avec cette primeur
qu'on
a sortie.
Je ne sais pas comment on va en jaser de ça pour la suite, parce qu'hier, il était en entrevue dans l'équipe du retour, avec l'équipe du retour ici à Boulevard 102.1. On peut reprendre sur blvd.fm. Sauf que ça sort aujourd'hui parce que tu as des contacts, tu as eu la nouvelle, blablabla. Ça reste que ça va causer bien du trouble pour la suite des choses.
Oui.
Puis comment est-ce qu'on explique un revirement de situation comme celui-là? Mm-hmm. De dire, c'est notre priorité, on est les meilleurs, on veut continuer. Les parents, les enfants, on pense à vous. Ah, on coupe 700 000 $
c'est ça.
Dans les camps de jour.
En plein ça, on n'a jamais parlé de ça en campagne électorale. On n'a jamais parlé de patinoire qui allait être fermée. On n'a jamais parlé de délai pour la troisième patinoire réfrigérée. Donc, il y a plein de services de coupure, de... Coupure, là, c'est Radio-Canada qui nous apprenait ça, Pascal, là, coupure de postes, de centres, de comptoirs de services.
Oui.
Donc également, on n'a jamais parlé de ça en campagne électorale. C'est de valeur parce que ça rend les gens plus cyniques sur la politique.
Bien absolument, surtout quand on parlait des camps de jour en campagne politique, en disant que c'est notre priorité.
Oui.
Parce que c'est une chose de ne pas en parler, c'en est une autre d'enjoliver les choses.
Ah oui, en se vantant du bilan. C'est écoute, les moins chers dans la ville de Québec. On est une ville active. On est les meilleurs au Canada.
Puis, honnêtement, Jeff, admettons que ça avait été une autre entité politique qui était au cœur de la ville de Québec et au règne de la ville de Québec avant cette nouvelle élection-là. Je pourrais dire, bon, bien, au côté coffre, il n'y avait peut-être pas tous les chiffres.
Ouais, c'est
pas...
ça.
Mais non, c'était lui.
Il les avait. Exactement, c'était lui. Il les avait. Le retour de Gravel suit à l'instant même. Farnell Morisset, 15h30, va venir s'installer. Simon Jolin Barrette, lâche pas le morceau. Et du moins, là, dans la Constitution, là, je vais le mettre le droit à l'avortement, mais il y a plein de juristes comme Farnell qui disent, non, fais pas ça. Tu vas mettre en danger le droit à l'avortement chez les femmes. Donc, Farnell va venir expliquer ça à la gang du retour dans les fins détails. C'est un juriste exceptionnel, Farnell, puis il va être avec nous demain à midi dans le segment Farnell Morisset, Lambert Drainville. Pascal Sévich, je te souhaite une excellente fin de journée, une excellente soirée.
À
Oublie
demain.
Pas que ce soir, c'est les Nordiques contre le Canadien 19h!
OK, je vais faire un effort.
Sur les ondes d'RDS, go Nordiques, go!